Station is being brought to you via Nullsoft Shoutcast streaming technology. For more information, visit shoutcast.com.
Avez-vous déjà rêvé un jour de débattre des sujets sur les livres, les films et l'univers de votre saga préférée? Désormais, c'est possible. Alors, sautez dans le Faucon Millenium et voyagez dans l'hyperespace. Branchez votre fréquence sur Star Wars en direct et voyagez sur les différentes planètes de la bordure extérieure. Informez-vous et participez à la magie de Star Wars en compagnie de Lunatic et de JGM. Mon nom est Boba Fett le Vrai et je vous invite à découvrir la galaxie francophone en écoutant Star Wars en direct.
Quantum Allah, no disintegration.
Hi, this is Steve Sansweet, and you're listening to Star Wars en direct.
All wings report in.
Red 10 standing by.
Red 7 standing by.
Red 3 standing by.
Red 6 standing by.
Red 9 standing by.
Red 2 standing by.
Red 11 standing by.
Red 5 standing by.
Rocket falls in attack position.
Accelerate to attack speed.
Heavy fire, boss. 33 degrees.
I see it. Stay low.
There's a lot of fire coming from the right side of that deflection tower.
I'm on it.
Going in. Cover me, Falcon.
Red 6, do you see Red 5?
The heavy fire is on it.
Red 5, where are you?
I can't shake it!
Hold tight.
Are you alright?
I got a little cooked, but I'm okay.
I've got a problem here.
Jack,
I can hold it.
This is it, boy. We're in position.
We're starting our attack run.
Switch all power to front deflection screen. Switch all power to front deflection screen.
How many guns do you think, Gold 5?
Say about 20 guns. Some on the surface, some on the tower.
Computer one. Getting a ticket. Gun. It stopped. Stabilize your rear deflectors. Watch for enemy fighters.
They're coming in. Three marks and 2-10.
Stay on target.
We're too close.
Stay on target.
Push it out.
I copy, Gold Leader.
It came from behind.
Rebel base, 1 minute. Closing.
Hey, quick, let's close it up. We're going in, we're going in full throttle.
That ought to keep those fighters up our back.
Right with you, boss.
Luke, at that speed, we'd be able to pull out in time.
It's just like Beggar's Canyon back home.
I can't stay with you.
Get clear, Wedge. You can't do any more good back there.
Sorry.
Alright, two, that stabilizer is broken loose again. See if the catwalk is down.
You're all clear, kid. Now let's blow this thing and go home.
Luke, trust your feet.
Great shot, kid. That was one in a million.
Remember, the Force will be with you. Always.
Connexion Plus, l'endroit pour la vente, l'échange et le rachat de produits dérivés de Star Wars. Venez nous rencontrer sur la rive sud de Montréal, au 163 Chemin Saint-Jean, à La Prairie. Connexion Plus, au 450
659-3411.
Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Nul besoin de traverser les ponts pour vous procurer vos produits dérivés de Star Wars. Priorité collection à tout ce que vous cherchez et bien plus encore. Venez découvrir nos nouveaux locaux sur la rive sud de Montréal au 2189 Chemin Chambly à Longueuil. Chez Priorité Collection, notre priorité est la vôtre. 450-651-8482.
Suivez quotidiennement les échos du tournage de l'épisode 3 en Australie et découvrez comment Anakin Skywalker succombera au côté obscur de la Force. Toutes ces informations et bien plus encore sur le www.sitecamp.net.
StarWarsEnDirect.com vous présente Star Wars en direct.
Jam its transmissions.
A communications disruption can mean only one thing.
Here they come.
The coordinate tractor beam is pulling us in.
You may fire when ready.
Commence primary ignition.
Et bienvenue à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. Mon nom est Lunatique et je suis en compagnie de GGM Will Mutez et de Michael Skywalker.
C'est bien, la prononciation, ça s'en vient, Danny.
Oui, hein, je vais finir par l'avoir. Et vous écoutez la voix de la communauté francophone de Star Wars. On a eu quelques petits problèmes techniques. Désolé pour le délai, on avait un petit problème avec le serveur radio. Donc, ce qui a causé notre 15 minutes de délai approximativement. Le sujet de la 33e émission aujourd'hui est le roman de la série New Jedi Order. Pas du tout, hein? Non, c'est de la série Clone Wars, le roman Shatterpoint, écrit par Matthew Woodring Stover, que l'on va avoir en entrevue.
Qui a aussi écrit un roman de la série NGO, Traitor.
Traitor, exactement. Bon, désolé, je suis stressé par le stress du...
Murphy
et puis problème technique. Bon, comme d'habitude, on va avoir la chronique Hyperespace, après la première pause musicale, et puis plus tard, vers la fin de l'émission, nous allons avoir la chronique événement, où est-ce qu'on... On va pas discuter où est-ce qu'on énumère les prochaines sorties de la communauté francophone de Star Wars, les sorties à venir dans votre région. Et on va probablement aussi parler avec notre invité aussi de la sortie de la ronde que Sitclan.net a fait hier.
Exactement. Plus tard au courant de l'émission.
Exactement. on parlera pas trop longtemps parce qu'on a perdu 15 minutes, donc
exact.
On va passer à la pause assez rapidement. Il y a plusieurs façons de nous contacter cette semaine, peut-être pas plusieurs, mais...
Il va y avoir en fait deux façons de nous contacter. Alors, c'est via le chat sur swendirect.com. dans le choix de chat du menu de gauche, venez nous rejoindre. On a déjà une dizaine de personnes environ là, sur le chat, ça grandit toujours. Et vous pouvez aussi nous contacter via email à swendirect@hotmail.com. alors on va prendre vos questions jusqu'à la pause pour l'entrevue
ou commentaire avec un S
ou commentaire avec un S à swendirect.com.
Donc,
et aussi super exclusivité cette là, on va avoir les commentaires de Lucasfilm par rapport au fameux Star Wars kits.
Oui, oh yeah, c'est vrai. J'avais oublié cela. Donc, j'ai écouté Danny et Sébastien et Michael peut-être plus tard sur la voix de la communauté francophone de Star Wars, Star Wars en direct.
Yeah. to jump into hyperspace on my mom.
All right, stand by.
Cette chronique est une présentation de Star Wars en direct.
Et on est de retour en ondes à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. Et c'est maintenant le moment tant attendu de la chronique.
Hyperspace.
Et voilà. Alors Michael est parti se cacher pour pas entendre des spoilers. Donc,
exactement.
C'est à toi Sébastien.
Alors, j'indique aux gens sur le chat que la chronique Hyperspace débute. Ça fait partie comment est-ce que je pourrais dire ça? La façon de se dérouler de la fameuse chronique Hyperspace, c'est qu'on indique aux gens qu'on commence la chronique.
La procédure,
merci. Et regardez le début, là, vous allez l'entendre évidemment, la fameuse intro pour la chronique Hyperspace que vous venez d'entendre juste avant qu'on revienne en onde. Et puis là, Danny va sortir son super chronomètre. Il va chronométrer un gros...
5 minutes.
Et puis nous autres, on va faire une superbe chronique Hyperspace.
Êtes-vous prêts?
Tout le monde est prêt. Alors, dans 3, 2, 1...
C'est parti.
Alors, dans la semaine qui a suivi notre dernière émission, bref, dans la semaine du 20 au 24 juillet, il y a beaucoup de scènes qui ont été tournées sur des plateformes d'atterrissage sur Coruscant, alors avec Bail Organa, avec beaucoup de sénateurs de Coruscant, Palpatine aussi qui était là, Mass Amedda et compagnie, qu'on voyait probablement qui arrive pour une assemblée au Sénat intergalactique, quelque chose comme cela. Fait intéressant sur la webcam dans ces journées-là, le 24 juillet à 18h11, il y a le mannequin d'un bébé qui apparaît à la webcam. Puis on verrait la tête, le derrière de la tête d'Obi-Wan pour un mannequin, apparemment très ressemblant. Il y a eu plusieurs discussions qui ont eu lieu depuis ce temps-là. Il y a eu une discussion avec Rick McCollum, avec Don Bees, avec Monsieur Anthony Daniels de Purple Jacket. Et voilà. Alors, ceux qui aimeraient avoir plus d'informations sur ces discussions-là, vous pouvez aller voir sur sitelan.net pour un résumé de la traduction ou carrément sur le site officiel pour voir les transcripts de chat, si je me trompe.
Exactement.
Alors, voyons. Alors, le 31 juillet dernier, alors un des highlights sur le plateau de tournage, c'est qu'ils ont commencé l'utilisation des plateaux qui se tournent sur eux-mêmes. Alors, c'est des plateaux qui tournent environ quoi, 14 km/h, je pense.
Possible.
Chose comme ça. C'est dans les vitesses qu'on avait entendu parler qui permettent de prendre une scène sur plusieurs plans, un petit peu comme le Matrix style fait par Matrix. Ensuite, l'utilisation de speeder comme dans l'épisode 2 qui va nous revenir. Alors, il y a eu beaucoup de scènes qui ont été tournées avec le speeder de Bail Organa. Un nouveau speeder rouge. Apparemment, une espèce de scène où est-ce qu'il sauve. Quelque chose comme ça. Ça a l'air très intéressant. 1er août.
Il va y avoir un échange de blaster.
Blaster juste avant, exactement. Ouais. 1er août, pratique des scènes sur le pont d'un vaisseau Nemodier, avec quelques scènes avec le Count Dooku aussi d'ailleurs qui ont été tournées. Ces fameuses scènes-là ont été reprises le lundi 4 août, et c'est là qu'ils ont tourné des scènes qui avaient l'air d'être des scènes d'action, de guerre, quelque chose comme ça, parce qu'ils faisaient bouger beaucoup les lumières pour donner des
explosions, l'effet
des simulations d'explosion, puis que le vaisseau se promenait d'un bord à l'autre. Et voilà. Le mardi 5 août, on a découvert quelle serait la couleur de la prochaine unité R2 de Obi-Wan. Elle sera de couleur bronze. Moi, j'aurais préféré le premier, là, je le trouvais plus intéressant, mais bon, ça a l'air qu'ils vont avoir acheté du bronze pour l'épisode 2. Il y a aussi une visite des gens d'Hasbro sur le site de tournage pour mettre leur production à jour par rapport aux nouveaux jouets. Ils ont parlé du Jedi Starfighter qui les a énormément impressionnés. Ils ont dit qu'au début, ils l'aimaient pas tant que ça, mais que finalement, ils se sont dit à trouver que c'était vraiment bon parce qu'il y avait beaucoup d'éléments qui comportaient, qui faisaient lien avec justement la trilogie originale, la trilogie classique. Fait que pour ceux qui voudraient savoir, apparemment que ça va ressembler, qu'il va y avoir beaucoup d'éléments qu'il y avait déjà avec le vieux jouet. Fait que j'ai très hâte de voir les nouveaux Jedi Starfighter. On a aussi eu des essais de costumes de Jedi. Il y a quelques costumes d'épisode 2 qui vont être réutilisés. Puis on a vu, comme on disait plutôt, les pilotes du vaisseau Nemodian, justement, avec une grosse chaîne, un gros trône là, qui contrôle tout le vaisseau. Mercredi et jeudi 6 et 7 août, il y a eu des tests qui ont été effectués par rapport au transport de cargaison avec les droïdes C-3PO et R2-D2. Parce qu'apparemment, ils vont transporter des valises ou des choses comme ça, on ne sait pas trop. Puis les scènes, ces fameuses scènes-là ont été tournées le jeudi avec succès. Donc, il n'y a personne qui a perdu de roue, de boulon ou de bras. Alors, félicitations, ces trois PO. tu es resté d'une seule pièce. Et sur le plateau de tournage, il y a aussi un cartable qui s'est promené. C'est le scénario visuel de l'épisode 3 pour aider justement les acteurs à bien se retrouver.
Ça, je sens que ça va être sur Internet dans les mois qui viennent.
Moi aussi, j'ai cette impression-là. Alors, ça a l'air d'être quelque chose de très intéressant, puis c'est des révélations. C'est une copie du scénario de George Lucas en même temps. Donc,
des storyboards, dans le fond. Là.
Exactement. Top chrono, 50 secondes.
Pas grave si tu dépasses.
Le 8 août, Ewan McGregor a mentionné au site news.com.au que le tournage de l'épisode 3 va très bien. Il a très hâte de se raser la barbe. Pas vraiment dans Hyperspace, mais c'est une nouvelle qui est parue sur ce site-là. Puis je trouvais ça intéressant parce que il commence à être tanné de la porter sa barbe, là, je pense. Alors, le samedi 9 août, il ne reste que 30 jours pour terminer le tournage du film. Et oui, 30 jours déjà de passé derrière nous et 30 jours devant nous. Alors, tout le monde semble vraiment épuisé, mais là, tout le monde est vraiment sur l'adrénaline, sur le trip. Ils voient un peu comment le film se déroule, puis ils ont vraiment très hâte. Alors, la semaine prochaine, il y a Natalie Portman, Anthony Daniels et Jay LaGaia, Captain Typho, qui vont terminer leur travail. Et Samuel L. Jackson a terminé son tournage, ainsi que plusieurs autres sénateurs et sénatrices la semaine dernière. Peter Mayhew a terminé les essais pour son costume et reviendra l'année prochaine pour des reshoots, ainsi que probablement certains autres acteurs. Et la semaine prochaine, il ne restera plus que Hayden Christensen, Ewan McGregor et Ian McDiarmid pour tourner des scènes.
Anakin, oh. Obi-Wan et Palpatine.
Et sur la musique. Ouais.
Quel timing.
Et voilà, c'est la fin de notre superbe chronique Hyperspace. On vous invite à passer sur cette lan, vérifier les news. Il y a plusieurs. On fait souvent référence à des images intéressantes si vous êtes un habitué du service Hyperspace et vous pouvez toujours passer voir aussi sur le site officiel dans le fameux thread qu'ils ont créé sur les forums de StarWars.com pour
ceux qui passent leur journée à noter toutes les images de la webcam.
Exactement. Et voilà.
Et ça conclut la chronique Hyperespace.
Et ça conclut la chronique.
En combien de temps?
5 minutes 52.
Ouais, quand même.
Mais le gros spoiler a arrêté à 5 minutes 16.
Ouais, c'est ça. Donc, Mickaël peut revenir. Je sais pas où est-ce qu'il est parti.
Mickaël! Et voilà. Alors, on va en informer les gens du chat. Et voilà.
Donc, on va poursuivre immédiatement avec le sujet principal de l'émission qui est en fait... le roman de la série Clone Wars Shatterpoint, le premier roman pour adultes, entre guillemets, qui n'est pas un livre pour jeunes comme la série Boba Fett ou Jedi Quest, etc. J'avais pas écrit de résumé détaillé comme les autres romans précédents. Donc, je me suis fié sur mes notes un peu pour décrire l'histoire du roman. Ça va être un petit peu plus... résumé que les autres, puisque j'ai seulement quelques lignes de notes, et puis j'y vais de mémoire, donc ça va être assez difficile. Et puis ensuite, on va aller à l'entrevue avec... après la pause, on va aller à l'entrevue avec Matthew Stover. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Shatterpoint? Premièrement, le titre Shatterpoint veut dire quelque chose. Mace Windu a un pouvoir spécial qu'on n'a pas vraiment vu dans l'épisode 2. C'est qu'il est capable de voir dans la force les points faibles. Donc, il peut regarder un ennemi dans la force, puis il va voir un point faible. Il peut regarder une structure, il va voir le point faible dans la force. Il peut même voir les points faibles dans tout ce qui est temporel. Il peut voir des événements, puis voir qu'est-ce qui va être le point faible, qu'est-ce qui va le moment de briseux, si on peut dire, qu'est-ce qui va faire changer le... Bon, c'est un méchant bon pouvoir, là, j'avoue que ça serait le fun à avoir. Ensuite, ça c'est comme il commence le roman avec ça. En parlant de ça, il y a beaucoup de souvenirs de la bataille de Geonosis. Mace Windu, il imagine beaucoup en se réobservant lui-même. Il dit j'ai eu la chance de tuer le comte Dooku, puis je l'ai pas fait. Qu'est-ce que ça aurait fait si on aurait bombardé la reine tout simplement? On aurait perdu Obi-Wan et Midala, puis Anakin, mais on aurait sauvé plein d'autres Jedi.
Ouais.
Donc, t'as toutes sortes de. Il se questionne tout sur le qu'est-ce qu'il a fait. S'il aurait dû tuer Dooku au lieu de tuer Jango, etc. Bon. etc. Donc, tout le long du roman, il se questionne sur son identité, là. Il dit, pourquoi j'ai pas fait ça? Puis, il y a comme des remords de ses actions, là. Il est vraiment pas...
Et comme le disait notre ami Qui-Gon Jinn, it will be a life with no regrets, ouais. No remorse, and no rewards.
Exactement. Bon, l'histoire commence en gros, Mace est appelé au bureau de Palpatine, et puis... il va dans son bureau visionner une vidéo qu'ils ont reçue d'une des planètes qui a été attaquée par des séparatistes. Il s'appelle Arunkal. Et puis, c'est une vidéo d'un massacre. C'est tu vois du monde se faire tuer. C'est très sanglant comme roman, là. C'est vraiment graphique. T'as du sang qui pisse partout. C'est pas un roman comme tous les autres romans Star Wars. C'est vraiment différent. C'est très violent. Et puis, ils voient un massacre... sur la planète, qui est la planète natale de Mace Windu en passant, où tous les habitants ont la force de cette planète-là.
Oh.
Ok. Ben, ont une sensibilité à la force. Ok. Et puis, ils ont la confirmation de la présence de l'ancien élève de Mace qui siège au conseil Jedi maintenant, qui est Depa Bilaba.
Ah ben, gardons.
Ok. Et puis elle est allée là pour investiguer, mais là elle est rendue folle, elle a perdu toute sanité, je sais pas comment dire ça.
Sa sanité,
puis elle est rendue folle un peu, puis là elle fait partie comme des massacres, puis tout. Bon.
Ok.
On peut voir un peu. Fait que là, Mace Windu, il dit faut que j'aille la sortir de là. Et puis si je peux pas la sortir de là, ben faut que je l'arrête, là. Pour qu'elle arrête de faire qu'est-ce qu'elle fait. Mais elle est pas toute seule, elle dirige comme un groupe là-bas. Bon, Mace Windu se dirige vers la planète, qui est une planète jungle un peu, j'imagine comme Yavin un peu. Mais imaginez-vous le Vietnam, parce que le livre est très copié sur Apocalypse Now. Le film, c'est pratiquement pareil.
Okay.
Même les événements dans Apocalypse Now, c'est pratiquement la même chose.
C'est dans la même
exactement.
Lignée d'événements.
Donc imaginez-vous Apocalypse Now, mais avec des Jedi dedans, ok? Ça fait spécial. Donc,
ça amène.
C'est ça. Mace Windu, il s'en va sur la planète pour récupérer des pas. Ensuite, la planète est très violente. Il y a une guerre qui dure depuis 30 ans. Ils appellent ça la guerre estivale. Les guerres estivales, c'est que t'as deux clans qui se battent durant l'été puis ils s'entretuent, là. C'est le fun, hein? Vraiment. Et puis c'est sûr que c'est fait que la ville et la jungle sont très violentes. T'as des coups de feu dans les rues, etc. C'est vraiment c'est le chaos là, total sur la planète là. Et puis il y a aussi beaucoup de bactéries dans l'air, même que quand ils arrivent sur la planète, il faut que les vaisseaux passent dans un champ qui détruit toutes les bactéries, autant sur les vaisseaux que dans le corps humain. Fait que toute la faune bactériologique que t'as dans le corps est détruit, puis il faut que il y a comme un système de douche qu'il faut que tu reprennes quand ça, parce que ça empêche les fungus, les bactéries de gruger les vaisseaux, puis fait que les villes sont protégées par ça.
Ah ben.
Puis quand t'es dans la jungle, c'est plus difficile de survivre. Si t'as une blessure ou quelque chose, tu peux être infecté très facilement, puis avoir des
sport,
hein? Ouais. Ok. Ensuite de ça, Mace en va rencontrer la chef de l'intelligence de la République sur la planète. Et puis elle lui a construit, mais pour regrouper 6 soldats qui vont l'aider à la recherche de dépôts dans la jungle. Sauf que les 6 soldats sont pas là, faut que l'officier de l'intelligence, elle s'appelle Flore. Elle va aller présenter. Il se promène dans la rue pour aller justement probablement rencontrer le groupe. Et puis, il y a un petit échauffouré au loin, des coups de feu, etc. Sauf qu'elle se fait atteindre puis elle meurt. Tiens donc. Ensuite de ça, bon, les tireurs, ils viennent vers le corps. Mais là, Mace est en train d'essayer de la faire revivre. Sauf que, trop tard, mais ils capturent Mace.
Bon,
ça va bien. Mais qui est-ce qui a capturé Mace? C'est la milice locale. Et puis là, Mace est amené devant le colonel de la milice, et puis qui est sensible à la force, évidemment. Donc, tu vois, il y a un interrogatoire. Bon, il dit, je pourrais te donner aux séparatistes, mais j'aimerais mieux que tu m'aides à régler un petit problème que j'ai avec un petit groupe de Jedi dans la jungle qui détruit mes hommes, là. Bon. tu peux imaginer que c'est Depa et, mm-hmm. et son groupe. Donc, il disait, OK, je vais y aller. Au lieu de
faire du boulot séparé.
Ouais, c'est ça. Donc, il s'en va dans la jungle. Mais non, pas tout de suite. Il sort du complexe. Et puis, dans la rue, il suit. Il remarque la race et les Korunai. Ben, c'est les habitants de la planète. Il voit un petit Korunai qui le suit. Tout ça, fait, qui veut se faire suivre plutôt. Fait que là, mais il se le suit. Donc, ça l'amène dans une embuscade, évidemment. Bon. Sauf que l'embuscade n'est pas menée par le groupe du petit jeune, c'est comme un commando qui arrive puis qui réussit pratiquement à capturer. Mais si ce ne serait pas du jeune qui lance le sabre de Depa à Mace et qui s'en sert parce que la charge du sien était finie.
Aha.
Donc il réussit à tuer le groupe, les commandos. Mm-hmm. Sauf que là on apprend que les commandos c'était les 6 soldats qui étaient supposés l'accompagner.
Oups.
En effet, mais justement, le jeune, c'est Nick Rostow, un des personnages principaux de l'histoire, mentionne que l'officier de l'intelligence était corrompu, puis il allait les livrer aux séparatistes anyway. Bon, c'est un petit peu compliqué, là, mais lisez le roman, ça vaut...
Il y a une grosse conspiration politique en arrière de ça aussi.
Exactement. Ensuite, il quitte pour la jungle, pour aller rejoindre Depa, essayer de la retrouver. Ensuite, bon, je décrirai pas tout ce qui se passe dans la jungle, mais il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de massacres. Tu vois même des enfants se faire tuer graphiquement, là. C'est vraiment horrible, là. T'as du sang. Puis même Mace Windu, il est là, puis je peux pas rien faire parce que dans la jungle, il y a comme une espèce de... Un aura de Dark Side, je sais pas si on pourrait expliquer ça. Ils appellent ça d'une autre façon. Eux autres, la force sur la planète, ils appellent ça le Pelitokan, je crois. Ça a un nom un peu de ce genre-là. Exactement, le Pelitokan. C'est la force, dans le fond. Sauf que c'est bizarre, parce que dans la jungle, on dirait que la jungle, elle contrôle un peu. Là. La jungle est comme vivante, puis elle est comme dark, puis c'est vraiment... Même Mace Windu, il a peur d'utiliser la force parce qu'il est comme imprégné de ça. C'est qu'au lieu de vouloir défendre quelqu'un, il veut le tuer, puis vraiment le tuer pour que ça lui fasse mal.
Ok.
Fait que là, il dit, oh, faut pas que j'utilise trop la force, sinon il m'a viré. Ouais.
C'est là qu'on commence à voir d'ailleurs la nouvelle qualité de la force qu'on
ouais,
découvre
exactement.
Dans NGO.
Exactement. Ensuite, bon, au bout du compte, là, après plusieurs massacres, plusieurs petites aventures dans la jungle, il rencontre le némésis principal dans l'histoire. Ben, le némésis, il aide et puis il essaie de tuer Mace. Il change comme. C'est bizarre, là.
Deux faces.
Exactement. Il s'appelle Carl Vaster, qui est un gros bonhomme très puissant dans la force, mais il n'y a jamais eu de discipline Jedi là-dedans. Il a tout, lui, c'est naturel, instinctif. Un peu la force pour lui. Et puis, il est très puissant. Et Depa, qui est aussi dans ce groupe-là. Depa, elle veut pas partir. Mais il s'est dit, reviens, il faut que tu sortes de là. Ça n'a pas de bon sens. Et puis, elle a dit non. Ensuite, après quelques échanges verbales entre Mace et Carvasta, ils décident de se battre. Ben, ils se battent, mais sans armes, à main nue. Là.
OK.
Puis Vastor, il donne une volée à Mace Windu.
Ah ouais?
Mais d'aplomb. Même Mace Windu, il dit, OK, là, j'arrête. Il est vraiment blessé, il a des côtes fêlées, des commotions cérébrales, puis vraiment, là, il se fait buter, puis il donne son sabre à l'autre. Il y a une raison pourquoi il a donné son sabre, c'est parce qu'il est sensible à son sabre, puis peu importe où est-ce que Vastor va se promener dans la jungle, il va être capable de le spotter. Il va être capable de le retrouver à environ où il est dans la jungle. Ensuite de ça... ça c'est intéressant. Pendant que Mace soigne ses blessures dans la force, il a des rêves. Pour lui, c'est des rêves, mais on le sait, car on connaît le futur, nous, et Mace ne le connaît pas. on sait que c'est des Force Vision, comme il voit le temple Jedi se faire détruire, il voit la fin des Jedi, il voit toutes sortes de choses qui arrivent aux Jedi. Et puis il voit aussi un petit caméo à NGO. Il voit Coruscant se faire attaquer par des bombardements orbital de vaisseau de forme inexplicable. Donc, il fait un lien, autrement dit, Mace Windu and Force Vision de NGO quand Coruscant se fait prendre par les Use and Vine. C'est un petit, petit cliché qui est rentré dans ce roman. Ensuite, là, il faut que Mace Windu il est venu avec une flotte qui est en orbite, est en orbite de la planète, mais il faut qu'il réussisse à envoyer un signal à la flotte. Là, il est dans la jungle, puis son com, il marche pas.
Son communicateur fonctionne pas.
Exactement. Donc, il faut qu'il trouve un endroit pour communiquer, pour que les clone troopers viennent l'aider, viennent le récupérer, puis repartir avec Depa si possible. Mais il réussit pas, puis de toute façon, Depa veut pas partir. Donc, il y a un signal quand même qui réussit à être envoyé éventuellement en orbite pour l'extraction. T'as Mace Windu et puis Nick, le jeune que je te parlais, qui le suit toujours. Nick, c'est comme un Han Solo. Fait tant des jokes, fait tant des blagues, puis tu sais, il est comme ben voyons.
Il est
très sarcastique. Et puis, il part dans la jungle sans Depa et Vasta pour aller au point de récupération de la flotte. Cependant, la flotte est présentement attaquée par des milliers de droid starfighters de la Trade Federation. Donc, ils ont beaucoup de difficultés. Mais ils ordonnent à tous les soldats restants de la flotte d'embarquer dans les landers, les vaisseaux d'atterrissage, là, et puis de lancer le reste de la flotte en hyperespace vers Coruscant pour pas qu'il y ait trop de dommages, puis d'envoyer tout le reste du monde sur la planète. C'est bizarre comme décision, mais on apprend qu'il y a une stratégie derrière ça qui fait qu'il y a un revirement à un moment donné dans la bataille. C'est quand même... ceux qui liront le livre, vous allez voir que c'est un move assez brillant. C'est juste que... je vous l'expliquerai pas en détail, mais... c'est bien fait. Il réussit à tromper les droids Starfighter.
Parce qu'il pense que tous les clones sont partis avec la flotte.
Non, c'est pas ça. C'est que... dans la Summertime War, la bataille entre les deux clans sur la planète, il y a quand même des gunships et des vaisseaux. Mais lui, il réussit à faire croire aux droïdes que ils tirent sur que des friendly tirent sur eux autres.
Ok.
On se fait tirer dessus. Les petits points verts qui étaient sur leur écran radar deviennent tous des petits points rouges. Qui disent on se fait attaquer. Fait que là, ils s'auto-détruisent d'une certaine façon. Exactement. Bon, ensuite, c'est ça. En fait, t'as deux petites armées. T'as les Balawai, qui est le groupe que Mace Depa et puis Vastor protègent. Non, c'est le contraire. C'est Mace Depa et Vastor. Ils sont avec les Corunai. Ils sont à peu près 400. Contre 15 000 Balawai plus les séparatistes. Donc, il n'y a pas grand-chance. C'est pour ça qu'ils ont besoin des clone troopers au plus vite pour les aider, bien sûr. Puis, une bataille avec des gunships, etc. Là, bon. Mace réussit à, justement, mélanger la logique des droids Starfighter, comme je viens de le mentionner. Bon. Maintenant, la seule façon de gagner la bataille, c'est il faut que Mace réussisse à prendre le contrôle, des droids Starfighter. Donc, pour ça, il faut qu'il y ait prendre le contrôle d'un émetteur qui est à quelque part sous le spatioport, là, qui est dirigé par la milice locale, dans le fond. Donc, pendant ça, lui, Carvaster, je vais l'appeler Vaster tout court, lui, il est tellement enragé, il vit tellement avec la haine de l'autre clan, qu'il tue les clones troopers. Les clones troopers réussissent à atterrir, puis ils font un petit quartier général. Puis lui, il veut tellement tuer l'autre clan qu'il tue tous les clones troopers. Il en tue quelques-uns, puis il fait à croire que Mace est mort.
Okay.
Donc il prend le contrôle un peu avec Depa qui est un membre du conseil, donc c'est une autorité pour les clone troopers. Hein? Depa est là, bon. Fait qu'ils prennent le contrôle, puis là, ils servent des droid starfighters, puis ils bombardent la ville. Où est-ce que t'as le colonel, etc. Où est-ce que t'as le spatioport, où est-ce qu'il est arrivé, où est-ce qu'il s'était posé au début de l'histoire. Ok. Donc là, les bombardements, donc Mace, il s'en va voir le colonel, il dit, écoute, le seul moyen d'empêcher ça, c'est qu'il faut que tu me dises où il est l'émetteur, puis que tu m'aides à mettre le bon code pour annuler l'attaque des droids Starfighters, sinon ta ville va se faire détruire. Il dit, ok, ouais, je vais t'aider, parce que là, sa ville est en péril.
Il n'y a plus le choix,
vraiment. Fait ils réussissent, ils se font, t'as un petit commando de clone trooper avec le colonel, plus Mace Windu, puis Nick, sur la planète, eux autres, ils ont des armes archaïques, ils ont des pistolets à projectiles, ils ont des vibro shields, etc. Mais il n'y a pas de laser, il n'y a pas de sabre laser, etc. C'est weird, mais c'est archaïque là, comme place. Ensuite de ça... OK, ben là, je vais tout simplement lire l'espèce de bataille finale qui est assez sanglante, là.
Âme sensible, ça te
Non, ben, pas nécessairement. C'est un résumé, là, c'est pas...
Revenez-nous dans quelques minutes.
Exactement. Ils mettent des charges, c'est comme dans un petit bunker que t'as le signal, puis c'est là-dedans que Depa et puis Vaster sont avec d'autres clone troopers. OK, là, ils font sauter la porte avec des explosifs, là, ils font noir complètement, là, ils rentrent. OK, l'explosion retentit, la porte est maintenant ouverte. Mace entre dans le centre de contrôle suivi de Nick, son le nouveau qu'il a trouvé. Il fait complètement noir. Il y a des morts partout sur le plancher. Nick fait feu sur une ombre, mais sans succès, parce qu'il voit des ombres. Vaster, il a entraîné des gardes qui sont très agiles. C'est comme un peu des nogris, un peu, sauf qu'ils sont entraînés dans la force. C'est de la même race. Ils sont entraînés dans la force, puis ils sont très rapides. Là. C'est comme un petit groupe de tueurs.
Des nogris force power. First
ouais,
center.
Genre. Ils s'appellent les Hack Guards.
Ou
AKK.
AKK.
Exactement. Mace observe un trou au sol, c'est là qu'il est l'émetteur. Puis à côté de ça, J Depa, probablement qu'elle était assommée par l'explosion. Ça, elle a probablement été blessée par l'explosion. Mace s'entretient avec Vaster. Tu sais, il était caché dans le noir quelque part, puis là, les deux se parlent. Et puis, soudainement, Depa, qui faisait semblant d'être inconsciente, bondit et transperce le ventre de Mace avec son sabre. Comme avec Qui-Gon, OK?
OK.
Mace réussit à immobiliser le sabre pour pas que Depa fasse un coup latéral, pour pas qu'elle coupe en deux.
Okay.
Il réussit à s'immobiliser la lame avant que Depa puisse trancher, puis il réussit à fermer la lame. Bon. Le colonel entre dans la salle, entouré de clone troopers qui tentent de le protéger. Autrement dit, il est entouré de clone troopers. Les clone troopers rentrent dans la pièce. Vaster et ses Hack Guards décapitent les troupes au fur et à mesure qu'elles entrent. Les Hack Guards ont comme des boucliers, mais avec un vibro autour. Là.
Un vibro blade autour.
C'est ça, comme des lames autour. Fait que là, ils décapitent tout le monde de même. C'est assez graphique. Là. Juste, tu peux imaginer.
Faut juste que tu fasses attention à ne pas te le manger dans le front, ton bouclier.
Ouais, c'est ça. Pendant que Mace et Depa combattent, les deux se battent. Depa est supérieure à Mace grâce au lien qu'elle a avec le Pelotokan, l'espèce de force noire là, qu'il y a sur la planète. Là. Donc elle surplante Mace, puis ils sont tous les deux adeptes de la forme 7 du combat Jedi qui est le Vapad, qui appelle Va-apad. Et puis c'est Mace qui a inventé ça, cette forme-là. Mais Depa, elle l'a, comment dire, surpassé.
Elle l'a bien appris.
Elle l'a bien appris, exactement. Puis c'est une des formes les plus...
Quand nous sommes quittés, je n'étais qu'un apprenti. Maintenant, ouais, c'est je ça. Suis le maître.
Exactement.
Maintenant, je suis la maîtresse. Oui, oui, pas de problème, Depa.
Bon, Nick réussit à tuer quelques Hack Guards, mais est blessé sérieusement. Il reçoit un slash dans le ventre, je pense, d'un shield.
Mm-hmm.
Bon, le colonel réussit à se connecter au terminal, mais reçoit un message d'erreur... Les ondes sont brouillées. Bon. Depa lance le coup fatal, mais Mace puise dans le peu d'énergie qui lui reste et se laisse tomber sur le dos, alors que le coup de sabre... Il fait comme se pencher un peu.
Il passe au-dessus de sa tête.
Ouais, c'est ça, exactement. Ça frôle. Ça, il fait comme se laisser tomber, puis la lame passe directement au-dessus de sa tête. Juste, il allait perdre sa tête, c'est ça qu'on veut dire. Bon. J'essaie de lire mes gribouillis de résumé. Depa le frôle et coupe les câbles de la console qui brouillaient les signaux. T'sais, mais c'est en arrière d'un petit système électronique. Il se fait comme se pencher puis elle la tranche les fils. Donc le brouillage est un petit peu tiré par les cheveux, mais quand même.
C'est la force.
Exactement.
Il n'y a pas de telle chose telle que la chance.
Exactement. Là, le colonel Gepkin réussit à alors envoyer le code de désactivation des droids Starfighter. Depa, voyant qu'elle a fait ce qu'elle a fait, elle se rend compte, elle fait comme sortir, voyons qu'est-ce que je suis en train de faire. elle pogne son sabre, elle se le met sur la tempe. Mais Nick, qui était blessé, il réussit avec son pistolet à projectile à tirer sur le sabre, puis là, le sabre...
Il passe juste à temps.
Il passe juste à temps, juste avant qu'elle allume sa lame puis qu'elle s'aille transpercer la tête. Là. Donc, il réussit à empêcher ça. Maintenant, il reste juste Vastor à éliminer. Mais malgré la faiblesse de Mace, il réussit, grâce à la force, à projeter un Vibro Shield, un bouclier vibrant, dans le ventre à Vastor, puis il fait comme se planter dans le mur. Là. Tu peux imaginer un peu.
Fait que les jambes descendent, mais le poignet sur le bouclier.
Avec ça, Mace réussit, grâce à la force, à tirer le bouclier, puis Vastor se blesse très sérieusement. Il est pas mort d'après moi, il est pas coupé complet, là, mais... Okay. Exactement.
Fait que là, Mace, il a mangé un sable laser dans les gouttes.
Ouais.
Il est encore vivant.
Ouais. Ben, ça a comme cauterized, là, c'est comme...
Oh, on s'entend.
C'est sûr, mais il est très blessé, là, disons. Hein? Et puis, bon, ça finit que... Bon, ils reprennent le contrôle, évidemment, maintenant que les Droid Starfighters sont fermés. Et puis, ils retournent sur Coruscant, le dépôt étant fermé pour crime contre l'humanité. Donc, parce que comme un génocide, là, voulait faire ça. Et puis, Palpatine même a visité le dépôt en compagnie de Mace dans sa cellule. Il devait être intrigué par le Dark Side qu'elle avait, ou je sais pas trop, peut-être. Et voilà, ça fait ça en gros le livre. Donc, il est très intéressant, là, c'est un résumé, et puis j'ai parlé très vite parce qu'on est très serré en temps. Et puis, je vous suggère de lire, c'est un livre très intéressant qui est très violent. Faites pas lire ça à vos jeunes. De toute façon, il est pas sorti en français encore, mais...
C'est pas une histoire, c'est pas le petit banc t'as perdu.
Exactement.
On lit pas ça aux enfants avant de se coucher.
Mais vous pouvez louer Apocalypse Now, et puis vous allez voir une bonne idée de qu'est-ce que c'est un peu. Imaginez des Jedi là-dedans, à la place.
Mais là, on vous en supplie, n'allez pas louer Apocalypse Now en DVD. Prenez pas une version digitale sur votre ordinateur, puis mettez pas des sabres laser à la place des fusils. Là. Ça passera pas là pour un preview de l'épisode 3.
Mais c'est pas l'épisode 3, ça se passe entre l'épisode 2 et 3 quand même, c'est dans Clone War. Exactement. Bon, ouf, la webcam est fermée comme je peux constater. Je vais la relancer immédiatement. Dans 2 secondes. Et voilà. Donc, il reste 5 minutes, donc on va tout de suite
aller
à la pause. 2 secondes, que je retrouve mon petit fichier. And for all you English listeners out there, the interview with Matthew Stover will be held right after the break. Stay tuned.
I'm Sean Williams.
And I'm Shane Dix. And we're the authors of the new Jedi Order trilogy, Force Heretic.
You're listening to Star Wars on Direct.
When I'm walking down the street, I call your name. Inside my head, I go insane. Don't you know that it's really making me crazy? There were days when I went completely blind. No time to think and I lost time. Won't believe what's happened to me lately. Cause every day it's the same thing. Different faces with no name. Places I've never been before. And every day it's the same thing. Different faces with no name. Places I've never been before.
Star Wars en direct vous revient après ces quelques messages.
Hi everybody, this is Josh from TheForce.net. When you get online, be sure to stop by the number one fan site for Star Wars for your daily dose. Our Star Wars news is updated literally a dozen times a day. We cover everything from the upcoming Episode 3 to the latest video games and collecting news. If it's connected to Star Wars, you'll find it on TFN. Post your thoughts about Star Wars, react to the latest news in the Jedi Council forums, over 10,000 posts a day. Stop by our side of the internet, TheForce.net, your daily dose of Star Wars.
Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Connexion Plus, l'endroit pour la vente, l'échange et le rachat de produits dérivés de le Star Wars. Venez nous rencontrer sur la rive sud de Montréal, au 163 Chemin Saint-Jean, à La Prairie. Connexion Plus, au 450-659-3411.
Citlan.net, c'est les toutes dernières actualités sur l'univers Star Wars. Plusieurs dossiers sur la saga. Des événements et rencontres entre fans. Un énorme forum de discussion. Une radio web à contenu 100% Star Wars, incluant une ligne ouverte en direct. Plusieurs concours ouverts au Québec et en Europe. Et bien plus encore. Ne résistez pas à la tentation du côté obscur. Cliquez sur le www.citlan.net.
Nul besoin de traverser les ponts pour vous procurer vos produits dérivés de Star Wars. Priorité collection à tout ce que vous cherchez et bien plus encore. Venez découvrir nos nouveaux locaux sur la rive sud de Montréal au 2189 Chemin Chambly à Longueuil. Chez Priorité Collection, notre priorité est la vôtre.
450-651-8482.
Star Wars en direct, rencontre.
And we're back on the air. Hi, every Star Wars fans on the air, online. We have on the phone Matthew Stover, author of the Clone War novel Shatterpoint, and of course the NGO novel Traitor. Welcome to the show, Matthew.
Thanks, Danny. I'm glad to be here.
Can you give us a little brief bio of yourself?
Well, a brief bio of myself.
Yeah.
I'm 40-something years old, publishing science fiction novels for about 8 years now.
Mm-hmm.
Traitor was my fifth, and Shatterpoint my sixth.
Okay.
I'm married. I live in a little house on an acreage in the country. Here in the Midwest, near the Wisconsin border,
mm-hmm.
And my hobby is martial arts.
I'm a
student and instructor of a type of martial arts called the Degerberg Blend.
Oh, yeah! Did you know that Walter John William was also a big martial art?
Oh, absolutely. The last time I spoke with Walter, I believe he said something that he's like about a fourth degree black belt in Kempo.
Yeah.
Stephen Barnes is also a very accomplished martial artist, the fellow who's coming up next in the Clone Wars novel.
Oh. Okay. Can you briefly describe the story of Shatterpoint?
Well, Shatterpoint, the original concept for Shatterpoint, I pitched to the folk Lucasfilm licensing as being Apocalypse Now with Jedi in it.
Mm-hmm.
It is about Mace Windu, the co-leader of the Jedi Council, along with Yoda. He's one of the two senior members, returning to the planet where he was born,
mm-hmm.
to look for his former Padawan and current, also member of the Jedi Council, Deepa Balaba.
Mm-hmm.
Who has gone missing on a mission to organize native partisan guerrilla resistance to the separatists on this planet.
Uh-huh.
And I'm not going to go much farther, except that Mace doesn't like very much of what he finds there.
Yeah. You're known to be writing stories that are not necessarily suitable for children. They are graphically violent.
my own novels are certainly not suitable for children. They're not something that's going to give a reasonably mature teenager nightmares. But I wouldn't even give one of my Star Wars books to a 5-year-old.
Mm-hmm.
It's not for them. I'm writing for what seems to me to be the core audience of Star Wars,
mm-hmm.
which is the kids starting at about 12 or 13 years old and moving up through college age. I'm also trying to make to write books that will appeal to people who are my age. Because, you know, when A New Hope first came out,
mm-hmm.
I was 15, and I was a huge fan of the film in the theaters. I saw the film about 25 times. And there are a lot of people like me who mm-hmm. were huge fans when they were teenagers who have fallen away from it. And I hope that some of the things like what Del Rey has done with the New Jedi Order might be a way of bringing back some of the grown-ups.
Yeah. Was that the reason that you were chosen to write Shatterpoint or Traitor, the fact that you wrote stories that are not, that are more graphically violent?
Well, I wouldn't go that far.
No?
I think that they, that Del Rey and Lucasfilm liked another element of my writing. I mean, they do, everyone talks about the fight scenes in my books.
Mm-hmm.
They are rather detailed. A lot of that reflects my martial arts background. And my other background is that I was an actor before I became a writer.
Oh, that's interesting.
Playwright. And so I have a sort of very strong understanding of the dynamics of an exciting scene, whether it be an action scene or just a dialogue scene. I understand the way you make the tension rise and create suspense and things like
mm-hmm.
that. And I think they were also interested in me because my my own novels have something of a philosophical edge to them.
Yeah, I have some question about that later.
Right. It's not just about the action. They're about
uh-huh.
ideas as well. And I think it was that blend that said to them, hey, you know, that's what Star Wars is. Because Star Wars has always been an action franchise that is also about the ideas.
Mm-hmm.
It's about the philosophy. It's about the Force.
Yeah. I read in two other interviews that Shatterpoint was inspired by the novel Art of Darkness.
Yes, it was.
What made you choose that type of story for Shatterpoint?
My original outline for... I was originally hired to write... they just wanted me to do a bridge novel.
Okay.
That was going to feature Mace Windu. And they didn't... they did not originally specify that this was going to be the first book of the new Clone Wars.
Okay.
That Barnes had been tapped for that. But when I created my initial outline for this, I did it in much more of a sort of traditional Star Wars kind of fashion.
Mm-hmm.
Not like Traitor at all, and not like the way Shatterpoint turned out. It was much more of the traditional sort of light adventure, desperate situations, narrow escapes, lots of chase scenes
mm-hmm.
and starship battles and, you know, a dashing scoundrel, a hot-tempered warrior woman, and a droid for comic relief.
Yeah.
And when they read it, they said, you know, this is really good, but it's not what we want.
Mm-hmm.
And I said, well, what do you want? And the word that I got back was that Lucasfilm Licensing really wanted to do war stories, Clone Wars. They really wanted something. The exact words were they wanted something with the feel of All Quiet on the Western Front.
Mm-hmm.
To which my response was, have you read All Quiet on the Western Front? Five. Including the hero. They all die.
Yeah.
Which is not something that I can exactly do in a Star Wars book.
Yeah.
Especially when everyone knows that Mace is going to be appearing in episode 3. So it took me quite a while of casting about and coming up with something that would play as a war story that could have an experienced warrior as its central character.
Mm-hmm.
Most of the sort of tragic, horrifying kinds of war stories that we have in world literature have to do with very young men with sort of romantic ideas
mm-hmm.
of warfare coming face to face
with reality,
gruesome reality.
Yeah.
And so they're a combination of a sort of shattering of their ideals and coming of age story.
Mm-hmm.
Now Mace, is 50 years old, and he's been a warrior his entire life. Mm. He doesn't understand, you know, they haven't had an actual total war in the Republic for 1,000 years.
Yeah.
But Mace has spent a lot of time fighting. He's already killed people, a lot of them.
Mm-hmm.
And it was what made the Heart of Darkness thing come to me was that in Heart of Darkness, Marlowe, who is the narrator,
mm-hmm.
is an experienced sort of man of the world, and he, in the process of traveling deeper and deeper into this jungle and passing beyond the bounds of civilization, he discovers things about himself and about human nature that living in civilization could not have taught him.
Mm-hmm.
And that is what caught my interest in using that as the kind of starting point for Shatterpoint.
Shatterpoint
is really about Mace discovering what happens to people, even people with the best intentions,
mm-hmm.
when they are forced to deal with situations where none of their old rules
mm-hmm.
really apply anymore.
Yeah.
And they just have to kind of make things up as they go along and hope for the best.
Yeah.
It's very difficult for people to do.
Mm-hmm. You're the first author to have worked on both NGO and Clone Wars series. Can you tell us what are the big differences between the two series from the author point of view and the editor's point of view, maybe?
Except, of course, like the NGO Bible, which is 4,000 pages thick.
Right. Well, see, this is actually the major difference.
Okay.
NGO, we all knew what the story was.
Okay.
Now, the story did change and develop as it went along. If they ever actually published the original Bible, you folks would be rather surprised at how divergent the story ended up being from what they had originally projected. But as the story developed, we were all kept very much in the loop and
mm-hmm.
and in contact with each other, and we all knew the part of the story that we had to tell to move the entire massive story arc along to its to the conclusion that had been agreed upon.
Mm-hmm.
Clone Wars is exactly the opposite. We don't really know what's going to happen. Even the writers, I know a few things about Episode 3 that, of course, I can't share with you,
mm-hmm.
but really very few. And so all what we had to do is propose different ideas to LFL until they said, well, you know, that sounds like it's in line with what we want.
Okay.
So, in a sense, as an author, I'm kind of in the same situation as the Jedi are themselves. We don't really know what's going on. We just have to handle our part of it as best we can and try mm-hmm. to keep moving forward into the future.
Okay, so you had more liberty with Shatterpoint than Traitor?
Oh, definitely.
Okay. You almost answered the my next question. Shatterpoint takes place between Attack of the Clone and Episode 3. Did you have access to some information about Mace Windu from Episode 3 that you have used in your story?
No.
No. Okay.
No, not at all. The only thing, what I have done with Mace in the book is based entirely on published sources.
Okay.
On the comic books and his depictions in the prequel novels, and in
Essential Guide
characters.
Okay. How would you feel if some of the characterization you made of Mace Windu was used in Episode 3?
Would be very proud. That would make me very, very happy indeed. That would mean that Mr. Lucas had actually read my book, and that would be great.
It would be fun, you know, to see, like, Mace opening his jacket and looking at a round scar in his stomach and saying, Obi-Wan, I got that in war. You don't want that to happen to yourself.
Okay, do you know if Samuel L. Jackson has read Shatterpoint?
I don't know. I believe I was told that Lucasfilm Licensing had sent him a copy.
Okay.
No idea if he's read it. I certainly haven't heard anything from the man. Mm-hmm. Never had the pleasure of meeting him or speaking with him.
Okay. There must have been things, location or character that were restricted of use by Lucasfilm. Can you mention some of them?
In my case, no. Nothing was out of bounds for me specifically. I have a feeling that there are places that if I had tried to go there,
mm-hmm.
my outline, they would have said, no, we don't want you to do that.
Okay.
I did come across some things like that when we were still trying to make my original outline work.
Okay.
There were things that they didn't want me to even really speculate about.
Okay.
But I can't tell you what those are.
Obviously. Next question. This was sent by us by Charles Victor DiGiovanni. You will be happy that we said his name. both your Star Wars novels are very philosophically oriented on the nature of the Force. It seems that you set Shatterpoint to ask many of the questions that Traitor had answered about the nature of the Force. Can you give us an insight into your thinking as you were writing some of this excellent philosophy?
Well, I don't really think of it so much as philosophy.
Okay.
It has to do more with just the way I see the world.
Okay.
The Force was originally created as a sort of science fictional metaphor for the Eastern concept of the Tao.
Mm-hmm.
And I have my approach to using the Force has always been to try and make it more inclusive.
Mm-hmm.
In other words, you'll notice as you go through my books, that I never say what the Force isn't,
mm-hmm.
because strictly speaking, there is virtually nothing that the Force isn't.
Yeah, the Force is one.
The Force is always. I don't know if you're familiar with this story. It's an old Arabian parable about five blind men describing an elephant.
Oh, no, I'm not familiar about that.
Go ahead.
Well, you have five blind men, and they encounter an elephant, none of them has ever encountered one before.
Mm-hmm.
And so one of them touches the elephant's leg and says, oh, an elephant is like a tree. Another one touches the elephant's trunk and says, an elephant is like a snake. Another one touches the elephant's tail and says an elephant is like a rope. Another one touches the elephant's tusk and says the elephant is like a sword. The point is that what we speak of in speaking of the Force, what Jedi speak of, is those parts of the Force that they can perceive.
Mm-hmm.
And just because they don't perceive other things in the Force doesn't mean they're not there.
Okay. It seems like you have a firmer grasp on some of the philosophy issues behind the Force than maybe other parties. Are you trained as a philosopher, or have you just devoted some really thoughtful times to the problem?
I did read,
okay.
A tremendous amount of philosophy when I was in my 20s and early 30s. I don't do so much now. Most of my understanding of philosophy, of the Tao, of the Force,
mm-hmm.
comes from my own experience.
Okay.
This is part of developing this sort of a sort of relationship with these larger forces that mm-hmm. govern our lives. Is part of martial arts training.
Yeah, a lot of fans are getting into that philosophy that you created.
Well, I didn't create it, understand.
I'm
trying to do is...
You exploited it a little bit.
Right. Explained little it to us.
Better
yeah.
than some of the other people yeah. want to show them.
Yeah. How that new concept of the Force, this new perception, let's say, how were they welcomed by Del Rey?
They liked it.
Yeah.
Well, of course... I am going on what they have told me.
Okay.
Right? For what I have heard from Del Rey and from the folks out at Skywalker Ranch,
mm-hmm.
is that they really, really like my book, and they like the direction that I've taken things.
Mm-hmm. Did that...
But, you know, they, okay. I can't answer for what they may not be telling me.
Mm-hmm.
Do you know if George Lucas approved himself that new perception of the Force?
I have no idea. Again, I don't think that there's anything really that new.
Mm-hmm.
My depiction of the Force goes right back to Yoda's teaching in The Empire Strikes Back.
Okay.
It grows straight out of there, and I think that they don't have a problem with it because I'm not contradicting.
Yeah, it's the same thing, but
canon. I'm making it larger instead of smaller.
It's a new point of view.
exactly, as Obi-Wan would say, from a certain point of view.
Yeah. Depa and also Mace Windu later in the story, they mention that they've become sane. Is that the same perspective that they are now understanding more the entity of that is the Force or something like that? More like Verger is trying to teach Jason, maybe?
I was not... I'm not sure that I really want to answer that question directly.
Okay.
I don't like to comment on the specifically on the text of the work itself,
mm-hmm.
because what anything in the book actually means is what it means to each individual reader.
Okay.
What I mean. I don't like restricting
mm-hmm.
people's experiences of the novel by saying, well, this is what this is about and that's
okay.
what that is about.
Mm-hmm.
And if you think that it's about something else, you're wrong, because that's just not true. It's about what you think it's about.
Yeah.
If somebody else disagrees with you, the odds are you're both right.
Okay, that's great. But that's making us think about those philosophies. That's great. If I'm not mistaken, you had a great idea to write a reference to the New Jedi Order in one of Mace Windu's dreams.
I can't comment directly on that.
See?
I enjoyed writing Mace's journal quite a bit.
Mm-hmm.
I had originally intended the novel to be entirely Mace's journal.
Okay.
It was all from first person, but I couldn't make the action scenes exciting that way because Mace is fundamentally a contemplative, serious-minded man,
mm-hmm.
and it would have been very difficult to write exciting action scenes in his own words because he just wouldn't describe them very vividly. Going on to that, to his dreams,
mm-hmm.
I enjoyed doing that. That's all I can really say. It was interesting for me to think about what a Jedi's nightmares would look
mm-hmm.
like.
But it was a great.
You could say
mm-hmm.
that the NJO is really about it's the Jedi's nightmare.
Yeah. That's true.
But beyond that, I'm not going to say that was specifically intended to predict
okay.
anything in the NJO.
Okay. But it was, I think the fans of the Expanded Universe liked that that part of the story.
A lot of them picked up on it, yes.
Yeah. The title, Shatterpoints, refers to Mace's ability to see weak points
mm-hmm.
in the Force. That ability makes him reconsider some of his action of the past. Was that the basic idea of the novel, to show the other side of Mace Windu, the fact that he's not as powerful and confident as we thought he was?
Well, part of the reason for the novel is to show him questioning his actions, questioning his ideals.
Mm-hmm.
Not in the end,
he's not weaker.
He discovers that he isn't wrong,
mm-hmm.
and if you look at the overall structure of the Star Wars universe as we see it in the films,
mm-hmm.
Things that look horrible turn out okay in the end.
Yeah.
I mean, if Anakin had not fallen to become Darth Vader, how could he have brought balance to the Force?
Yeah. That's true.
It is, you might call it the GFFA equivalent of the old saying, God moves in mysterious ways.
Mm-hmm.
Now, even the wise, or as Gandalf says in Lord of the Rings, even the wise cannot see all ends.
Yeah, I think you like Lord of the Ring also. I'm asking this because of the reference you made in Traitor, that scene where Ganner is standing in front of hundreds of Yuuzhan and Vong and say, "None shall pass."
Yeah, I like that scene quite a bit. That was not intended as a direct reference to Lord of the Rings.
Oh, okay. I thought
A lot of people assumed that it was, but
okay.
No, I was thinking specifically in terms of there's a I believe it's a Roman legend of Horatius at the bridge.
Okay.
A single man holding off a legion because he's taken up a position where they have to come at him one at a time.
Mm-hmm.
Always one of my favorite stories. And I wanted to give Ganner a
great ending. Did you like Fellowship of the Ring and the Two Towers, the movies?
I liked Fellowship of the Ring quite a bit. I was really, really surprised at how entertaining they managed to make it, because as a novel, it's pretty slow. I was a little bit less impressed with the Two Towers.
Mm-hmm.
I thought it felt a little choppy and episodic. I thought the battle scenes were spectacular, were dynamite,
mm-hmm.
but I thought they had lost some of the dramatic tension in the middle. I thought the middle of the film kind of sagged.
Mm-hmm.
I was just kind of waiting for them to get on with the next scene.
Yeah. They want
I'm to looking forward to the Return of the King.
Like every one of us. Nick Rose, too, was one of my favorite characters in Shatterpoint.
Mine, too.
Because he lightens the mood of this dark story. How did you develop this character?
Well, that was actually exactly what I intended him for, was when you're writing a novel, it's always, there has to be a character progression, a character whose understanding or understanding, perception, whatever, grows during the course of the novel. Mace is not allowed to grow all that much,
mm-hmm.
because I didn't know exactly what they're going to be doing with him in episode 3.
Mm-hmm.
So I wanted to put in a character who would grow because of his contact with Mace.
Okay.
Right? Just having Mace mm-hmm. in his life takes Nick from being a cynical, weaselly, mercenary, smartass, being a legitimate hero.
Yeah. But he's getting more mature during the time of the book.
I'm sorry?
He's getting very more mature just during the time of the book.
He grows up a lot.
Yeah.
In fact, just about my favorite scene of the entire novel is the one where Mace and Nick are on the rooftop. I'm not going to go into more detail than that because I don't want to spoil anything for
mm-hmm.
folks who haven't read it yet.
Yeah.
But when they're on the rooftop and Nick is arming themselves and they're looking out over the city, and I really, really liked Nick then, and I wrote that and thought, that's a good character.
I really like his joke, and he's very smart ass, like you said.
Yep. But you know, and you need that.
Yeah.
It has to be.
He's a Han Solo type kind of character.
There has
yeah.
to be some humor in it.
Yeah.
And that was, I think, the major flaw of Traitor, was that it just wasn't funny enough.
Mm-hmm.
I mean, it can be, the situation can be very dark, very dangerous, and traumatic and all these things, and still have a certain lightness, a certain humor. And also, Nick gives Mace a chance to show off a little bit of his own sense of humor,
mm-hmm.
which is very, very dry, very deadpan, kind of observational byplay sort of thing.
Mm-hmm. It was very interesting that you choose to use low-tech weapons like projectile weapons and vibro shields. Can you explain that choice? Were they more bloodier?
Well, that was not actually really the consideration.
Uh-huh.
Part of the reason that I did the low-tech weapons was just for storytelling purposes. It's very difficult to do something that, you know, undertake that kind of extended search for someone and having them lost on a planet where there's a lot of high tech, where there's satellite detectors,
mm-hmm.
and you know, Mace could have just taken a ship and flown right down on her homing signal or whatever.
Mm-hmm.
A lot of war stories have to do with covering time and distance and having to defend specific places. And part of what gives them intensity is when you make these things difficult for the characters to achieve. In the standard high-tech environment where you know, Star Wars environment, where you can get from nearly anywhere to nearly anywhere in the galaxy in a day or two,
mm-hmm.
it's very difficult to tell some of these types of war stories. So the low-tech angle was to sort of remove that shield of the high technology
mm-hmm.
of the Star Wars galaxy from Mace's life. Technology is a way of interacting with reality, but it's also a sort of level of defense
mm-hmm.
against reality. Like the house that I'm standing in right now is on one level. It's a barrier between me and the trees and the grass
yeah.
and the weather outside.
Mm-hmm.
You take away the house, and all of a sudden I'm in much more direct and intimate contact with the reality around
yeah.
me. And so that's part of why the technology just kind of had to go.
Mm-hmm. Mace's
he had to be depending on his own
yeah.
resources and not on gadgets.
Yeah. He had to survive. Yeah, that's it. Okay. Carvaster, Mace's nemesis in Shatterpoint, is a very, very interesting character. He's very strong in the Force, or Pelitokin, as it's called on Arunkal. But he's driven by hatred and by the darkness of the jungle. For me, that was, his character was very similar to what, Verger is trying to teach Jason, that, being trained as a Jedi may be, doesn't permit to see all the perspective of the Force. The Force is natural. It's not. It's an instinctive in the case of Vastor, and it's learned in the case of Mace's. And I think there is a lot of parallel between the two novels. Just
there are some things in common there.
Yeah.
And part of what Mace does, if you want to look at these two books as related, which I suppose they are because
mm-hmm.
I wrote both of them, you can think of, in some ways, you can think of Mace as being the answer to some of Jason's problems.
Mm-hmm.
Mace walks close to the dark side himself,
yeah.
as we've noticed, but Mace's commitment is always to
the Jedi's, yeah.
justice and civilization,
yeah.
because civilization creates justice, as
mm-hmm.
he says in the book.
Yeah.
And, well, we all know that power in the Force is only partially a function of training.
Mm-hmm.
Mr. Lucas made that fairly, very clear with
mm-hmm.
the concept of the midichlorians, that you can be just naturally, some people are just naturally powerful and can do things that that other people can't.
Mm-hmm.
Now, you don't. It would not be precisely correct to say that Carr Vastor has had no training. Bear in mind that he is a product of a culture in which for 4,000 years, everyone in that culture is Force-sensitive.
Yeah.
And they are descendants of Jedi, and they have skills that directly relate to their environment. It's not that he has no training, it's that his training is not Jedi training. His training is...
Jungle training?
Jedi boot camp.
Yeah.
Okay. This question, you may not be...
be able to answer?
That's it, maybe. you wrote a small story called Equipment for the Hasbro Clone War booklet that is taking place at the same location as Shatterpoint.
Yes.
Was that story a lost chapter of Shatterpoint or part of what should have appeared in your cancelled ebook?
No.
No?
Nope, absolutely not. That story was completely separate.
Okay.
That was something that they came to me and asked me to do, and they wanted it to tie into Shatterpoint.
Mm-hmm.
I thought that it would be interesting to get the perspective of an individual clone trooper,
mm-hmm.
because I don't think that had been done yet. It may have in one of the comics that I haven't read yet,
mm-hmm.
but I don't think that we've actually seen the fighting from the perspective of one of the actual, you know, the guys under the masks,
mm-hmm.
those guys who look like Jango Fett.
Mm-hmm.
I just thought that would be an interesting way of
mm-hmm.
of telling a story.
Yeah, Equipment is interesting because it's written in the first person, much like Michael Stackpole's novel I, Jedi, and the Journal of Maces in Shatterpoint.
Mm-hmm.
It focuses on the point of view of a clone trooper. What was that a challenge for you to write in the first person?
No. In my own fiction, I use a wide variety of viewpoints.
Okay.
And two of my novels, Heroes Die and Blade of Tai Shao, both contain extended sequences that are written in the first person. I'm very comfortable with that style.
Okay. Any reason why the e-book was canceled?
Because I was so late.
Okay.
Shatterpoint took me so long to write that there just was not time to do the e-book.
Okay.
If Del Rey still wants to buy that story from me, I have a really good concept for it. But there was no time for me to write it. I mean, it would take me a month to 6 weeks to write the write a story that long, and there was no time. I literally turned the book in on what we call the drop-dead date.
Okay.
Not just a deadline. It is the date beyond which the book cannot make it into production and still be released on time.
Okay.
Not possibly have happened. I turned it in that same morning. How late I was on it.
Was there something that you wrote that you really liked but didn't make it in the novel after editing?
Nope.
Nope? Everything got through?
Yep. They made a few changes, but they were pretty much all things, you know, just words here and there to make it more consistent with the continuity. And, they cut out a few of my jokes, which I guess might have been just a little bit too crude.
Can you tell us some of them?
No? I don't think I should.
Okay. What was the biggest difficulty in writing Shatterpoint?
The biggest difficulty in writing Shatterpoint for me was frankly my health. That's part of the reason I was late, as I suffer from a little bit of a medical condition that flares up now and again, and really slowed me down in the middle of writing this book. Other than that, the only tough part was coming up with the idea in the first place.
Okay.
It took about 6 months to get an outline approved by LFL, because they really had a very strong idea of what they wanted in terms of that, you know, that dark, gritty war story sort of thing, and it took me a little while to get it through my thick head that that's what I was going to have to do. I was actually looking forward to writing a somewhat lighter piece.
Mm-hmm.
My own fiction tends to be fairly dark. Traitor is certainly very dark. I have written some kind of funny books. I wrote a novel based on Flash Gordon
Okay.
for Harper Entertainment that ended up not being published due to trademark issues with the holder of the copyright King Features. But
okay.
Boy, you know, it was a lot of fun writing kind of high-spirited, humorous, light adventure.
Mm-hmm.
And that's sort of what I had hoped to do with Mace, but that's not what they wanted me for.
Okay.
Wanted me to do something that was going to be real serious, and so that's what they got.
What were your experiences working with the other NGO authors and Delray's editors?
Well, working with my editor for Star Wars is, I guess everyone else's as well, Shelley
mm-hmm.
Shapiro.
Yeah.
And it was just outstanding. Shelley is very supportive. She is one of the real pros in our field. She has been a science fiction editor for, I don't know how, I can't say how many years because she doesn't want me giving away how old she is. But she's been around, and she's been with Delray forever, and she is a phenomenal editor. She's very supportive. She's really on the writer's side. She's what we call she's a writer's editor.
Okay.
Well, what she's interested in is making a book good. Mm-hmm. There are editors who have ego issues.
Okay.
I've dealt with some of them in the past that have a certain vision for things that they will try and bully you into conforming to. And Shelley's not like that. All Shelley wants is a good book, and she's great.
Okay. What was your first impression when you were introduced to the Yuuzhan Vong culture?
My first impression?
Yeah.
You know, I honestly, I don't recall, because I knew so much about it by the time that I finally read Vector Prime
mm-hmm.
that I don't even know what my first impression would be. All I remember Jenny Smith, who was at the time Shelley's assistant, coming to me to ask me if I would be interested in writing for Star Wars and telling me about the alien race of religious fanatics who are invisible in the Force.
Mm-hmm.
And you know, I thought that would be. I found it interesting.
Okay.
About the only thing I can really recall.
Okay. You know how the NGO series will end, right? So since you obviously cannot tell us the storyline, how much the Star Wars fans will be surprised? Matthew?
I don't know. By the time you get to the end of a story like this,
mm-hmm.
you have a pretty good idea of how things are going to go. The details, you know, how we actually get there,
mm-hmm.
I think some of those will be quite surprising. I know Jim Lucino is a really good writer,
mm-hmm.
and he can pull things out of his hat that will, I think, it maybe shock some people along the way. I don't think the ending is going to surprise people too much.
Okay.
But it might. I'm not entirely sure what people are expecting.
Okay. As an author, what are your comments on the expanded universe versus the official stories of the movies? What would you say to fans that deny the expanded universe because it's not written by George Lucas?
What would I say to them?
Yeah.
I don't know. Get a life.
Read the books.
I find that concept, just that whole purist concept.
Mm-hmm.
Maybe I'm prejudiced because I work in the expanded universe and they
yeah.
give me a lot of money. But I find that purist garbage to be just absolute garbage.
Okay.
From my point of view, a good story is a good story.
Mm-hmm.
And you know, if they don't want to read these books, that's fine.
Mm-hmm.
Nobody's putting a gun to their head saying mm-hmm. that they have to read the expanded universe. But to say that these books are you know, worthless or not Star Wars, or that's just ridiculous.
Mm-hmm.
That's I don't know. I can't even pretend to understand any sort of logical justification for that attitude.
Mm-hmm. We just have to get them to read the books. That's the most difficult part.
Well, some people just don't like to read.
Yeah.
Some people want to just sit in front of a box with their mouths open and have a story poured down their throat. Reading is not like that. Reading is a little bit of work. Reading requires imagination and emotional investment on the part of the audience itself.
Mm-hmm.
You have to work a little bit to read, especially to read well. And some people just aren't interested in that. Okay. I mean, I did a book signing
mm-hmm.
for Shatterpoint not too long ago, at which members of the local Star Wars fan club
mm-hmm.
showed up in their stormtrooper armor and their various Jedi outfits.
Uh-huh.
It's three different Anakin Skywalkers there.
Uh-huh.
The young one, the the Phantom Menace one, the Anakin in his long dark robes from F2 and Darth Vader.
Uh-huh.
And we must have had five Rebel pilots and some of Naboo's security forces. And there were probably, 20 or 30 people there in uh-huh. full costume. And of the 30 people or so, only 10 of them actually bought the book.
My God.
Because they like the movies, they like dressing up in the costumes, and that's fine. More power to them. I would rather they not even read the books at all
mm-hmm.
than read the books just to have an excuse to argue with people and tell them that the books are worthless.
Mm-hmm.
Know what I'm saying?
Yeah.
I get that sometimes from people online who have read something of mine just because they've heard it's the sort of book that they're not going to like, and they write to me to tell me how much they didn't like it.
Oh, that's...
And I thought, well, if it sounds like something you're not going to like.
I don't understand. I'm a big EU fan, so for me, the Expanded Universe is the future of Star Wars, when the movie will be over and everything.
The Expanded Universe kept Star Wars alive in the interim.
Yeah.
Kept interest going. There's a reason why The Phantom Menace grossed a phenomenal opening weekend.
Mm-hmm.
And a lot of it had to do with the hundreds of thousands, if not, say, millions of people who read the Expanded Universe.
Exactly.
And were just so excited to have a new cinematic Star Wars story.
There wouldn't have been prequel movies, probably.
I can't say that. I don't know that for sure.
Uh-huh.
But it would not surprise me
mm-hmm.
if part of the reason that Mr. Lucas went ahead and did the prequel movies is because he could see from the sales of the Expanded Universe books all these years. Starting in when did Don's books come out?
In 91, I think.
91, 92.
My
personal favorites in the Expanded Universe are Brian Daley's Han Solo novel.
Mm-hmm.
But
yeah, pretty good.
That's not really part of the what you would call the modern Expanded Universe.
Yeah.
Those were done before the
yeah.
there was really a concept of the whole Expanded Universe and all that sort of thing. But
mm-hmm.
I would not be at all surprised if Mr. Lucas saw the just tremendous response
mm-hmm.
that Don's novels got and thought, well,
there's an interest.
Do
yeah.
this because there's a market out there.
Yeah.
People will pay to see these movies.
You said earlier that you were a big Star Wars fan when you were little, but how much of a fan were you before writing a Star Wars novel, and how much of a fan are you now?
That's an interesting question. I suppose I'm actually a bigger fan now than I was when I started writing Traitor.
Mm-hmm.
At least when I signed the contract.
Okay.
Right, Trader. What has happened is, in watching the NJO develop and working in the universe and starting to understand the possibilities of storytelling
mm-hmm.
in the GFFA and, dealing with the Force and Jedi and smugglers and pirates and all the rest, I've become more and more interested in it. It's one of these things, I suppose this is the mark of a really powerful concept, because the more you think about it, the more there is to think about.
Mm-hmm.
You don't run out of stories in the GFFA.
No.
That's pretty extraordinary.
Yeah. Any comments on the prequel movies up to now compared to the original trilogy?
Well, I like the original trilogy better.
Mm-hmm.
Of course, by the time the prequel movie came out, I was no longer Mr. Lucas's ideal target audience.
Yeah.
A little bit older.
Mm-hmm.
that sort of thing. But yeah, I really liked Return of the Jedi.
Mm-hmm.
I liked that even more than Star Wars. When I was in college, Return of the Jedi was out in its 70mm form
mm-hmm.
at one of our local theaters in Des Moines, Iowa, which is where I went to school, and they had a cheap night where every Tuesday they would show the picture for a dollar.
Mm-hmm.
And I would guess that just about every Tuesday that we didn't have something better to do, we would go down there and watch The Empire Strikes Back. It was great. I saw it opening night. I was there in a packed house full of people who cheered
mm-hmm.
each time one of the heroes, you know,
came back. Yeah.
Of Luke Skywalker, everybody jumped to their feet cheering and clapping. And when Darth Vader walks on, the entire audience booed and hissed. And just, it was thrilling.
Yeah. Do you have any expectation for Episode 3? Do you follow spoilers?
I do not follow spoilers.
Okay.
I suppose if somebody were to offer me the script, I would go ahead and read it. I read Bob Salvatore's book of Attack of the Clones
mm-hmm.
before that film came out.
Okay.
Because I had to for developing Shatterpoint.
Mm-hmm.
I had to know what was going to happen in episode 2.
Episode 2, yeah.
But given the choice, no, I'd rather just see it in the movies. Mm-hmm. I don't really like spoilers as a general rule.
Yeah, and do you have any expectation for episode 3?
I'm expecting a lot of violence.
We also do.
Lots and lots of fighting.
Are you scheduled to write a short story for the Star Wars Insider or something?
Dave at the Insider has been after me to write a short story, and I have agreed to do it. My problem is that my brain doesn't work very well when I try to do more than one thing at a time.
Okay.
So I'm really caught up in writing the next novel of my own,
mm-hmm.
and it's not leaving me a lot of excess cerebral capacity to invest in writing a story for the Insider. I want to do it. In fact, I met Dave out at the San Diego Comic-Con.
Mm-hmm.
We had lunch together, and he walked into lunch with an idea, roughly speaking, with an idea for a story that was a really good idea. And he said, well, you want to write this one? And I said, sure. And now I'm just trying to come up with enough time and energy to actually pull it together.
Okay. If you had another chance to work on the Star Wars universe, what story would you like to tell?
Ooh. Now, that's one you should have asked me. You should have warned me about that question. I have to think about that. really come up with something.
But I don't know, maybe something between episode 3 and 4 or maybe really early in the...
I would think that the story that I would most like to tell would probably be something set long after the NJO.
Okay.
Would be like the final adventure of Luke, Han, and Leia.
Okay.
Not, you know, not necessarily their, not like their deaths
mm-hmm.
necessarily, but just like the, you know, I would be interested to write about them when they're like really old,
mm-hmm.
but they're still heroes. They still, you know, have to saddle up and help save the galaxy.
Mm-hmm.
I think that would be an interesting story to write.
And it would be interesting to see their children.
As fully grown adults.
Yeah.
Yeah, Grandpa Luke.
Grandpa Luke, yeah.
Luke, yeah.
Okay, now we will go with Sebastian and some fan question. I think you got some.
Yes, I got a little bit of them.
Okay.
Jeremiah on our forums wanted to know what were your reports with Lucasfilms. How's everything when you go writing a Roman... a book and everything, a novel. They propose you the story and you actually like develop on what they propose you, or do they just like give you really basic lines and you go on after that?
What for the NJO, there was a specific segment of the story arc that I was hired to write. So I knew what I was getting into more or less right at the beginning. But beyond that, even in Prater, they had a place where they wanted the book to begin, or the story that I was telling to begin, and a place where they wanted it to end in terms of the development of the character. Pretty much everything in the middle was up to me.
Huh, that's good.
He said, they said, you know, make us an offer. Show us what you got. Come up with something, and we'll let you know whether or not we like it.
Okay. Could you actually had proposed them, you know, can I kill this guy? Can I kill this guy?
No, actually, I was out at the at story conference for where we developed the story arc for the second half of the NJO out at Skywalker Ranch, along with Jim Lucino, Shelley Shapiro, and Troy Denning. And so we were hammering out the plot line, and Lucy Wilson had put a list up on the chalkboard of every single Jedi who had ever appeared, who is currently alive in the expanded universe. And he said, well, you know, there are way too many of these. who should we get rid of? And they decided that they didn't really need Ganner anymore, and I said, okay, I'll take care of him. I didn't like him. And, you know, I had read it. I thought he was kind of a, arrogant, pompous, jerk, weakling sort of person. And of course, in the process of preparing him for his exit, for his heroic exit, I came to really like him a lot. And the way he developed, you know, especially the way Troy worked with him, and the way he developed over the course of the NJO was really, I thought, one of the nicer subtleties of the series.
Okay.
Yes. Okay. Thank you. What was the most difficult concept or anything else to develop in Shatterpoint itself?
Most difficult concept in what sense?
Force concept,
for instance, or the ways that Depa had actually like gone better than Mace on the Vahad Pa.
I didn't have much difficulty with the force concept in that. It all seemed to make sense to me.
Okay.
I don't know how to describe it.
It came to you.
It just came to you.
It just, yeah. Yeah, sometimes it does. This is one of the ways in which I, one of the ways I work is when I'm working on a story, every once in a while something just sort of comes to me and it explains a lot of different things all at once.
Okay.
And when those sorts of things happen, I just assume that my subconscious knows better than my conscious, and I kind of go with these things that just sort of work for me. That's how I know that the story's going well. When things are not working for me, I have to go back and it's a real struggle when I'm leaving something out that needs to be in, or I put in too much more than needs to be there, then I start to get, I don't know how to describe it, confused and tired, and I just don't want to work on it anymore. And then I'll get a new idea, and all of a sudden I'm happy and excited, and it's like, that's...
As one of your fellow writers said, you don't want to fight the river of life. You must go with the current, not against it.
Exactly. Who was that?
I don't remember.
It's Troy Denning.
It was Troy? That's it.
Yeah.
I'm sorry?
It was Troy Denning when we interviewed him.
He's a pretty smart fellow.
Another question. Actually, that one is for me. What do you think of the midichlorians story in episode one?
I'm not a big admirer of midichlorians. For one reason. One reason only. I thought that introducing the concept of the midichlorians removed psychologically the fantasy of an ordinary person becoming a Jedi.
Yeah, that's true.
Right? One of the cool things really what I thought one of the central cool things about Star Wars is that Luke Skywalker is this ordinary teenager who suddenly discovers the power that he has,
mm-hmm.
and it's all about him learning about his power. And there's a fantasy element to that, and a lot of fantasy fans like to sort of imagine themselves in that kind of position.
Mm-hmm.
And there is a sense, I mean, there has always been a sense, I don't know, at least in my kind of literature, that some of these powers are accessible to you because of your character as opposed to your heritage.
Mm-hmm.
Like, you know, Sir Lancelot, whose strength is the strength of 10 because his heart is pure.
Mm-hmm.
Really, really good person. He can do things that ordinary people who are not so good cannot do. And it's more about who he is than about inheriting power from his parents.
Uh-huh.
Yes.
And that's I find that more interesting and more sort of emotionally powerful than midichlorians. But on the other hand, I mean, there are a variety of storytelling options for midichlorians as well. I mean,
it explains a little bit.
It happens with Anakin.
Yeah.
You suddenly find yourself burdened with power, not unlike Harry Potter in some ways,
mm-hmm.
where you were just born into power and now you have to find a way to deal with it, even though it's not necessarily, you're not necessarily psychologically or emotionally prepared to be that powerful. So I don't hate midichlorians at all. It's a question of emphasis for me.
Okay.
A little more personal question now. Would you think of yourself as a more spiritually open person? Because I've been listening to the interview, and you seem to like that kind of person to me.
I'm not sure what you mean by spiritually open, but I am a religious person in my own way. I do not follow an organized religion, but I consider myself to be spiritual in that sense. Mm-hmm. Yes.
Yeah. That's what I meant.
You're right.
Okay.
Absolutely. I am. I believe in. I don't know. Higher powers is not exactly the right word, but I believe in the existence of energies and relationships that we cannot directly perceive with our limited human senses, and I believe in them for the same reason that I believe in the sun.
Mm-hmm.
Because I have felt it on my skin, you might say.
Yeah.
There isn't an easy way to describe it, but I would say that I am spiritually open in a certain sense. There are a number of current varieties of spirituality that I think are exceedingly unhealthy, and that I wish people would sort of grow out of.
Yeah.
but other than those, I'm pretty open.
Okay, that's very interesting. So that's about it for the questions from the fans.
Okay. Now that what's coming up for you? Any recent or upcoming novel that you that would interest most sci-fi fantasy readers?
Well, I would hope that they would be interested in the book that I'm working on right now, which is called Kane Black Knife, and is the sequel to my novels Heroes Die and Blade of Tyshao.
Okay, and when will it be coming out?
Yeah, I'm hoping to finish that before the end of the year and have it in the bookstores by next summer, next fall, if that's assuming that everything goes very, very well indeed.
Okay. And anything else you would like to promote, book signing, etc.?
No, you know, I don't travel much.
Okay.
These days. It's due to the economy and things like that. A lot
uh-huh.
of these bookstores aren't doing very many events right now.
Okay.
So I'm just kind of staying in my office and working a lot.
And hopefully we'll see you again doing some Star Wars work.
Well, I certainly hope so. I cannot I can't argue with the money, and I really enjoy the exposure. I like the fact that hundreds of thousands of people read books that I write, and I've gotten to be very fond of writing in the Star Wars universe in general. I mean, anyone who has read my own work will find that finding me in Star Wars is the most natural thing in the world.
Mm-hmm.
What I write is philosophical adventure fantasy, and that's exactly what Star Wars is.
That's great. Okay, the interview is almost over.
We actually got one more question from the chat. it's an implant troubling question. I have to warn you about
a Lucasfilm implant.
So you might feel a little trouble in your head or something like that. We've been like looking at the NGO series,
mm-hmm.
and we've seen a lot of Kevin J. Anderson characters die throughout the series.
Mm-hmm.
Without like maybe telling us, do you think that in the next couple of books we might see someone like, I don't know, maybe Kip Duran lose his head or something?
I can't answer that. I'm sorry, I can't even go there. To tell you the truth, so much has changed even since the last time I was at Skywalker, mm-hmm. and we worked out the storyline, that I honestly don't know who's going to live and who's going to die. Mm-hmm.
The Bible must have changed a lot.
Speculation about the final prophecy and the unifying force, and I realized, that I just don't know. I don't get advanced information on this anymore. My book is over, so
you've cut out. You're cut out of the info.
The books after they already come out. Okay. I don't get to see them in manuscript anymore.
Okay.
So I honestly don't know who will live and who will die.
Okay. Now it's like I've mentioned, the interview is almost over. Now it's time to do our little promo, if you like.
Just
go ahead, and we can do a lot of takes if you don't get it as you like.
Say, hi, this is Matthew Stover, author of Shatterpoint and the new Jedi Order novel, Traitor. You are listening to Star Wars en direct.
That's perfect. We'll take that.
Okay.
Yeah, that's great. So for all you listeners, Shatterpoint is available since June in all major bookstores, so go get it.
Go get it.
And, well, this was a lot of fun.
Absolutely.
Thanks a lot, Matt.
Thank you for having me. Yeah. I hope to talk to you when my next Star Wars book comes out.
Yeah, we hope so, too. Stay on the line, okay?
Okay.
So, this was a exclusive interview with Matthew Stover, the writer of
Shatterpoint and Traitor.
That's it. Sorry. And you were listening to Danny and Sebastian on the Star Wars
on Direct.
Yeah, that's it. And we'll be back hopefully with the translation of all this interview after the break. So we'll be right back. Stick around.
Beside me, oh, you ain't going nowhere.
Loneliness, that's the killer.
Some of future kings can only lead to no good. Besides, all our sons and daughters already know how that feels. Yeah, yeah, yeah. Love, love, love.
Hey, on est de retour à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. On vient d'avoir une entrevue avec...
une entrevue exhaustive.
Exhaustive, exclusive, avec Matthew Stover, l'auteur de Shatterpoint, de la série Clone Wars. Il parle beaucoup, on va le dire, et puis on espère avoir retenu les grandes lignes de qu'est-ce qu'il a dit. Donc on va commencer tout de suite, je vais dire les questions et puis...
Tu vois, tu m'avais pas averti assez de bonheur à faire mon defrag toi là.
Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que tu peux te rappeler qu'est-ce qu'il a dit sur où est-ce qu'il habite, quel âge il a, etc.
Il habite à quelque part dans le Wisconsin.
Ouais, c'est ça. Je sais que je me souviens pas de son âge.
Il y a 40 quelques années, tu sais, on va te... Alors, Michael qui est avec nous en studio.
Ouais.
Faut
que tu parles assez proche du micro.
Ouais.
Ok.
Gêne-toi pas. Et tout le monde a mis ses microbes dessus, de toute façon.
C'est ça.
Je vais être le prochain.
On fait une collection.
Exactement.
Il a 40 quelques années, puis
il est 6 romans.
Huit.
Drette ici.
C'était le sixième, c'était ça.
Il y a 8 romans. Il disait que ce qui n'avait pas été édité, c'est The Real Flash Gordon en 2001. Okay. Il parlait qu'on va revenir un petit peu plus tard.
Bon, description du roman Shatterpoint, ben, je l'avais fait un petit peu avant. Il a été dans moins de détails, bien sûr, parce qu'il voulait pas spoiler les fans qui l'avaient pas lu. Ensuite, on lui a demandé qu'il était reconnu pour écrire des romans violents, des romans qui n'étaient pas faits pour les jeunes enfants. Et puis, est-ce que c'était la raison pour laquelle il avait été choisi pour Shatterpoint et Traitor? Il a dit non, c'était pas par rapport à ça. Mais il a dit que oui, c'est vrai qu'il écrivait des romans qui feraient pas lire à des enfants de 5 ans, disons.
C'était
orienté 12 ans et plus, là, surtout.
12 à 13 ans et plus. Moi, ça me faisait rire, me semble, de voir ça. T'sais, ce livre a été approuvé par la General Reading Association pour les 13 ans et plus.
Exactement. Exactement, lui, il a parlé beaucoup de ses romans, puis de, évidemment, qui étaient vrais, ses descriptions de batailles, etc., étaient très graphiques. Il a été acteur, il parlait qu'il a fait, du acting, qu'il disait un petit peu, puis ça l'aidait à faire des descriptions plus visible, plus graphiquement visible au lecteur.
Il avait beaucoup plus d'imagination, justement.
Exactement.
Dans les livres qu'il a fait en passé, il utilisait beaucoup la première personne.
Exactement.
Puis c'est un style avec lequel il est rendu très habitué.
C'est ça.
Puis, d'ailleurs, on va en revenir un petit peu plus tard là, sur ça. Là,
OK. Je lui ai demandé, dans deux autres interviews, que Shatterpoint était inspiré du roman Heart of Darkness. C'est d'ailleurs ce roman-là qui a inspiré Apocalypse Now, le film.
Le superbe film.
Donc, il était vraiment inspiré par ça. Puis, qu'est-ce qui a fait choisir ce type d'histoire? Qu'est-ce que je pourrais me souvenir? C'est que c'est envoyer quelqu'un qui est habitué par la civilisation ou quoi que ce soit, qui a toujours ses habitudes, puis l'envoyer dans un endroit qui le fait se redécouvrir lui-même, qui voit vraiment que c'est pas... Quand tu sors du contexte de vie habituel, que c'est très différent. Et puis, il me semble que c'était un peu... J'ai pas lu ce roman-là. C'était le roman préféré de Walter John Williams, Heart of Darkness. Je sais pas si tu t'en souviens de notre entrevue.
Je m'en souviens très bien.
Donc, c'était dans les choses qu'on lui dit, favorite novel à la fin.
Exact.
C'était Heart of Darkness, d'ailleurs, son roman préféré. Qu'est-ce qui a fait choisir ce type d'histoire? Ben, il voulait justement une histoire... Où est-ce que Mace Windu se redécouvrait un peu là. Il faisait face à l'adversité.
Il devait revenir face à face avec la réalité. Mm. Puis c'était justement un shattering of ideals. C'était tous ces idéaux qui cassaient la figure là. Puis qu'il fallait tout qu'il les remonte, puis qu'il les refasse, puis qu'il leur redonne une base solide puis ce qui expliquait que c'est justement le type de choses qui arrivent quand les gens sont forcés de dealer avec des situations où les règles générales auxquelles ils sont
appliquées ne s'appliquent plus,
mais à la base.
Donc, ensuite, je vais demander, tu es le premier auteur à avoir travaillé sur la série NGO et la série Clone Wars. Est-ce qu'il pouvait nous dire c'était quoi les plus grosses les grosses différences entre les deux séries? La grosse qui a dit c'était la Bible. Il n'y a pas vraiment de Bible pour la Clone War.
C'est ça, je disais justement, à part la Bible de 4000 pages, j'ai dit ben c'est justement la plus grosse différence.
Exactement. Parce que la série Clone Wars, ils ont eu quelques lignes principales et puis c'est tout. Le reste, ça vient de deux. J'imagine qu'ils ont des objectifs à atteindre, mais l'histoire n'est pas guidée.
C'est ça, c'est qu'il disait justement, l'histoire était toute done pour était toute finie pour NGO. Ça change toujours un petit peu, là, c'est toujours flexible selon ce que les auteurs écrivent. Puis ça donne que pour Shatterpoint, il n'y avait pas. Il y avait quelques informations à propos de l'épisode 3.
Mais qui ne nous a pas dévoilé, bien sûr.
Qui ne veut pas nous dévoiler, exactement. Mais la majorité de ses sources, c'était sur les romans de la prélogie, les comics.
Le guide essentiel des personnages, oui. Ensuite, donc il y avait la liberté pour Shatterpoint et Traitor, c'est ça. C'est que pour Shatterpoint plus que Traitor, justement, c'était ma question suivante. Bon, j'ai demandé, Shatterpoint se déroule entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Est-ce qu'il avait accès à de l'information sur Mace Windu de l'épisode 3 qu'il a utilisé dans l'histoire? Il a dit pas du tout. Il n'y a aucune information. Ça vient tout de justement ses références puis qu'est-ce que lui a fait. Puis j'ai demandé comment il se sentirait si la personnification de Mace Windu qu'il a faite dans son livre, si c'était repris un peu dans l'épisode 3, il a dit qu'il serait très fier. c'est normal.
C'est là que justement je disais, on verrait Mace Windu dans l'épisode 3 qui rouvre son gilet de Jedi.
Je pense qu'il l'a pas compris. Tu as parlé assez vite, je pense qu'il n'a pas compris ce bout-là.
Puis il montrerait justement la cicatrice du sabre laser infligée par Deppa.
Ensuite, j'ai demandé s'il savait que Samuel L. Jackson avait lu Shatterpoint. Il a dit que Lucasfilm lui a envoyé une copie du livre. On sait pas, il n'y a pas eu de feedback par rapport à ça. Il aimerait ça en avoir, bien sûr. Mais
il n'a pas rien entendu de l'homme en tant que tel. Mais connaissant Samuel Jackson, je suis persuadé
qu'il a lu
le livre.
Il l'a lu.
Puis il doit s'en servir. Il a dû s'en servir dans les 30 premiers jours.
Ouais, sûrement. Le tournage. On va sûrement voir des petits clichés là, subtils.
Quelque chose comme ça. Genre, il va se pencher. Oh! Une vieille blessure de guerre.
Ça serait trop drôle. Est-ce que des lieux, des personnages qui étaient restreints, qu'il ne pouvait pas utiliser pour écrire son livre? Je parle, mettons, peut-être qu'il ne pouvait pas utiliser Naboo, mettons. Il a dit complètement pas du tout.
C'était
ouvert. Là. De toute façon, s'il y a quelque chose qui s'approchait, comme il avait dit dans son premier draft, qui n'était pas basé comme le livre présentement, il disait que oui, il y avait des choses qui ont été corrigées. Mais il n'y a rien des lieux ou des personnages de l'épisode 3 qui n'avaient pas le droit, en tout cas ça n'a pas tombé, qui a eu des choses à changer. On s'en va dans la philosophie pure et dure.
Exactement. celle-là, elle fait une bonne partie de mon écran d'ailleurs.
J'ai demandé la perception de la force qu'il a créée, comment ça a été perçu par Del Rey, que des questions, Shatterpoint posait les questions qui ont été répondues dans Traitor sur la force, quel genre, comment, c'est quoi son point de vue quand il écrivait ce genre de philosophie, etc. À toi, Seb.
il disait justement que c'était pas philosophique du tout de son point de vue. Ça avait plutôt à voir avec la façon dont il voyait le monde. Pour lui, la force, c'est un petit peu comme le Dao oriental. Et puis, il nous dit que la force, c'est beaucoup plus... c'est inclus. C'est jamais... Il dit toujours ce que la force est, il dit jamais ce que la force n'est pas.
N'est pas, c'est ça.
C'est ça. D'ailleurs, il se référait à la parabole
des cinq mages ou je sais
des,
pas
des,
trop.
Des cinq moines aveugles qui décrivent un éléphant mais qui ne l'ont jamais vu d'abord. Le premier, il va toucher la jambe de l'éléphant, il dit « un éléphant, c'est comme un arbre. Mm-hmm. » Le deuxième touche la trompe, il dit « c'est comme un serpent. » Le troisième touche la queue, il dit « c'est comme une corde. » Le quatrième va toucher l'oreille, puis il va dire « c'est comme une épée. » Puis il s'est pas rendu au cinquième. on va essayer de la retrouver, celle-là. Mais
t'avais une corde, le tronc.
Non, c'est ça. J'ai tout dit okay. Ce qu'il y avait. J'ai bien fait attention.
Attends, ça continue.
Okay. Ce qu'il nous expliquait, c'est justement, c'est pas parce qu'on peut pas le voir que c'est pas là. En gros, c'est une des choses auxquelles il référait. Lui, quand il était plus jeune, oui, il a lu beaucoup de philosophie. Maintenant, il en lit plus autant. Mais il a aussi pris beaucoup de son expérience personnelle avec son entraînement en arts martiaux pour écrire justement La Force. Et Delry l'ont beaucoup aimé, finalement.
Et il n'a pas confirmé si ça avait été approuvé par George Lucas lui-même.
En fait, ce qu'il disait, c'est que George Lucas, il avait absolument aucune idée par rapport à ça, si George Lucas l'avait approuvé oui ou non. Puis, c'est qu'il nous ramenait.
Delroy a mis le point de vue qui détruisait rien de ce qui était déjà fait.
C'est ça, ce qu'il disait aussi, c'est qu'il nous ramenait à l'enseignement de Yoda dans Empire Strikes Back, mais en beaucoup plus large, plutôt que plus petit.
J'ai dit, départ. Et Mace Windu dans l'histoire, il mentionne à un moment précis qu'ils sont devenus saints d'esprit. Dans quel sens est-ce qu'ils ont. C'est parce qu'ils avaient compris plus le sens, l'entité qui est la force, ou etc. Je faisais une comparaison à Vergère, puis il disait non, c'est pas du tout ça. C'était plus l'interprétation des lecteurs.
Lui, il aime pas ça, expliquer la façon dont lui, il a écrit le livre. Mm-hmm. Il préfère que tout un chacun lise le livre puis fasse sa propre interprétation personnelle. Le texte veut dire ce qu'il veut dire pour vous. Mm-hmm. Lui, il vous mettra pas des ailleurs en disant ça veut dire ça.
Ce qu'il
expliquait, c'est que justement, si moi j'ai une vision de ce que lui a écrit, si Danny il a sa vision à lui, on a probablement tous les deux raison à 90%.
Ouais, c'est ça. Ensuite, j'y ai parlé, qu'il y avait une référence au Nouvel Ordre Jedi dans un des rêves de Mace. Il ne voulait pas le décrire pour garder la surprise.
Pour ceux qui n'avaient pas encore lu le livre.
Exactement. Donc, mais il a dit oui, c'était ça me tentait. Là, c'est comme
exactement.
Les fans aiment ça.
Il a énormément aimé écrire les journaux de Mace Windu, là, justement, parce que, comme on le disait un petit peu plus tôt, il est très familier avec la première personne. Lui, il voulait faire justement Shatterpoint, juste des journaux
un journal, ouais.
de Mace Windu, mais ils lui ont demandé de pas s'y aller comme ça. Puis en plus, ce qu'il nous dit, c'est que c'est pas très facile. Parce que moi, il y a de la difficulté à s'exprimer. C'est pas énormément facile de décrire des scènes de grande action dans une.
Parce que tu es en première personne, ça manque de détails.
Dans un format première personne. Mais, pas pour être chien puis le contredire, je vais quand même glisser que Michael A. Stackpole a tout récemment écrit le roman, le premier roman de Macquarie Dark Age. Et c'est un excellent roman, c'est écrit entièrement à la première personne, et il y a plusieurs scènes justement de grandes actions qui décrit de son point de vue. Ça a quand même énormément d'allure, donc c'est peut-être quelque chose justement à aller retravailler pour Matthew Stover.
Ok, ensuite on pose la question, que le roman Shatterpoint fait référence au pouvoir de Mace de voir les points faibles dans la force. Puis, est-ce que cette habileté lui fait reconsidérer certaines de ses actions, etc. Et puis, est-ce que c'était l'idée principale du roman de montrer Mace Windu qui n'était pas aussi puissant et confiant qu'il l'était? Il a dit, c'est pas tout à fait ça.
C'est pour questionner justement l'emplacement de Mace dans la force. Toute la structure universelle de l'univers de Star Wars, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous sembler horribles au début, vont bien finir à la fin, C'est un petit peu comme ça qu'il voyait ça, Matthew Stover, en écrivant le livre pour Mace. Puis c'est ce que lui-même voit, c'est que Mace, il est comme dépressif au début du livre un petit peu, mm-hmm. puis que vers la fin, là, ça commence à aller mieux.
Exactement. Bon, j'ai parlé aussi du personnage Nick Rostou, qui est un de mes personnages préférés, qui a dit lui aussi, c'est un de ses personnages préférés, parce que il amenait la comédie un peu. C'était un peu comme un smartass, comment tu dis ça en français?
Un arrogant.
Ouais, un arrogant comique, là, un peu, là.
Sarcastique.
Sarcastique, exactement. Il fait beaucoup de sarcasme, un peu comme Han Solo, etc.
Un peu comme moi.
Exactement. Donc, c'est... comment qu'il a développé ce personnage? Bon, il disait que dans tous les romans, peu importe la noirceur du roman, il faut que tu aies quelque chose pour alléger l'ambiance, là. Donc, il mentionnait ça. Il disait que dans Traitor, il avait pas été assez... c'était trop sombre, il n'y avait pas de ce côté-là dans l'histoire. C'était vraiment... Traitor, c'était le livre le plus sérieux que j'ai jamais lu, là. Il n'y a vraiment pas de comédie, là, ou presque pas, là. C'est vraiment très, très sérieux. Donc, c'était un des personnages. Puis, sur quoi il s'est basé, il n'a pas vraiment dit, simplement, que c'était un personnage comique.
Exact, c'est surtout que c'est un petit peu, entre guillemets, le héros de son livre. Nick, c'est justement, il part de très bas, puis il finit en héros.
Exactement, il a beaucoup maturé pendant les...
C'est ça, l'une de ses scènes préférées, c'est quand Mace et Nick sont sur un toit, puis qu'il est en train...
Il faut que je relise ce bout, c'est à ce moment-là que je crois que Nick explique, tu sais, qu'il est avec Depa, puis pourquoi qu'il y a le sabre de Depa, etc. Je pense que c'est à ce moment-là. Puis il dit, bah, t'es un Jedi, whatever, là. Si tu vois, il niaise un peu.
C'est ça.
Bon, pourquoi qu'il a choisi d'utiliser des armes basse technologie, si on pourrait dire comme ça, et puis pourquoi qu'il a pris ce choix-là? J'ai demandé, est-ce que c'était parce que c'était plus sanglant comme arme que des sabres laser? Il a dit non, c'est plus le fait de quand t'es habitué à la technologie, justement, puis t'amènes dans une situation ou un endroit que t'es comme pris, t'es comme, faut que tu vives avec la nature, faut que tu vives avec qu'est-ce qui est plus archaïque un peu, là. C'était ce côté-là qui était plus vulnérable.
C'est plus dur, puis c'est ça, on est habitué dans la galaxie de Star Wars à avoir énormément de liens avec la technologie. Là, il voulait nous ramener un petit peu plus beau au niveau de la technologie, nous expliquer ça avec sa maison, justement. Il disait... ma maison, c'est ce qui me sépare des arbres.
Ça te met en sécurité. Ouais.
Ça te met en sécurité. Dès que tu m'enlèves ça, faut que je me débrouille justement pour...
Avec l'environnement. Faut que tu t'ajustes à l'environnement. C'est ça.
C'est ça.
Ensuite, bon, j'ai parlé un petit peu du méchant. Car Vaster, bon, qui avait plusieurs liens avec Traitor, etc. Je pense encore que ça dépend un peu du point de vue du lecteur.
Ce qu'il disait, en fait, c'est que Mace... dans Shatterpoint, c'est un peu la réponse au problème de Jason, ouais. Traitor. Mace, il est très...
Il est quand même
dévoué à la justice puis aux gens. Mm-hmm. Contrairement à quand tu regardes Jason dans Traitor, là, qui... qui t'a fait fuquer, ben raide. Pauvre petit gars.
Non, mais j'ai mentionné aussi...
La fin de la série.
Il mentionnait aussi que il est quand même pas mal plus... Il est sérieux maintenant, là, depuis une couple de romans.
Ouais, je sais.
Mais il mentionnait que Mace Windu, il ressemblait aussi dans le sens que il est sur le bord du Dark Side pareil, mais il est trop dévoué à la discipline Jedi et la justice, justement.
C'est ça. Il expliquait que la force, c'est à propos de l'entraînement que tu suis. Le méchant.
Il est entraîné d'une autre façon.
C'est ça. Il a juste été entraîné d'une façon différente que les Jedi.
C'est ça. Ensuite, bon, il a parlé qu'il avait écrit une petite histoire qui s'appelle Equipment un dépliant. Ouais, ça, en tout cas, vous ouvrez un disque compact et vous avez un feuillet avec les paroles.
C'est ça.
C'est l'équivalent de ça.
Un livret.
Exactement le bon mot. Bravo, Michael.
Merci, Michael.
justement, qui écrit, c'est une petite histoire de 4 pages, je crois, 4-5 pages, sur le point de vue d'un clone trooper dans la bataille qui se passe dans l'espace de Shatterpoint. C'est très intéressant, puis c'est écrit à la première personne. on lui a demandé est-ce que c'était une partie de l'histoire de Shatterpoint qui a été enlevée ou si c'était une partie du e-book, de son e-book qui a été cancellé. Puis il a dit non, c'est complètement nouveau.
Ça n'a absolument rien à voir avec Shatterpoint.
Exactement. On lui a parlé à la première personne s'il était familier avec ça. Si c'était un challenge écrit à la première personne, il a dit non.
Ça fait déjà plusieurs romans qui écrit justement à la première personne.
Exactement. Il a demandé quelle était la raison pour laquelle le e-book a été cancellé.
Ben, la raison, c'est qu'il l'a remis la journée où le e-book devait sortir.
C'est ça.
Bref, il était trop tard pour l'envoyer.
Ben, c'était la journée...
Le drop dead.
Ouais, c'est ça.
La journée finale. C'était la journée où le e-book sortait. Qui était,
je sais pas si c'est le e-book. Moi, je pense qu'il parlait du roman. Ça il a pris tellement de temps à écrire le roman.
Ça a pris trop de temps à écrire le roman.
Quand il a déposé le roman, c'était comme la dernière journée. Là,
pour le e-book.
C'est ça. Ensuite, justement, il a expliqué plus loin que qu'est-ce qu'il a fait. La plus grosse difficulté dans Shatterpoint, c'est qu'il y avait des petits problèmes de santé qui revenaient de temps en temps. Il n'a pas été plus en détail. On n'a pas besoin de vraiment savoir non plus.
Exact.
Qui a fait que bon, ça l'a ralenti.
Ça y a pris à peu près 6 mois pour accepter les termes de Lucasfilm. Mm-hmm. Puis qu'il voulait vraiment quelque chose de sérieux. Fait que c'est ça qu'ils ont eu. Parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup faire des blagues. Monsieur Stover.
Est-ce qu'il y avait quelque chose dans son roman qui avait aimé, mais qui a été coupé par l'édition? Il a dit non. Pas mal tout a été conservé. Sauf ces quelques blagues qu'il avait mis. Quelques blagues crues.
C'est cela.
Probablement que c'était...
Qu'il n'avait pas le choix. Il nous parlait de l'éditeur Star Wars, Shelley justement, Shapiro. Avec qui il a travaillé, Shelley, que c'est une véritable professionnelle dans leur champ d'expertise parce qu'elle est tout le temps du côté de l'auteur et non pas du côté...
Égoïste, oui. Il disait qu'il y avait des éditeurs égoïstes.
Ça, elle est très supportrice, puis elle n'a pas...
Supportrice.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise comme autre mot que ça? Supportatrice. Elle supporte les auteurs dans leurs décisions.
Elle encourage
les auteurs dans leurs décisions. Et elle n'a pas de problème d'ego.
Exactement.
Bref, elle a pas... C'est pas une grande bosse.
On lui a demandé c'était quoi sa première impression quand il était introduit au Use and One. Il a dit qu'il savait pas mal, beaucoup d'avance, même avant que Vector Prime sorte. Mais il disait, ça avait l'air intéressant.
La seule chose qu'il est capable de souvenir, c'est que l'assistante de Shelley Shapiro, qui avait lu ses livres, l'a appelé pour lui demander s'il serait intéressé d'écrire dans l'univers de Star Wars. Quand elle l'a appelé, elle lui a décrit les Use and One comme étant des fanatiques religieux qui sont invisibles à la force. Mm-hmm. Puis ça a pas mal resté à ça.
Exactement. Ensuite... ça c'est une question que j'avais skippé. J'avais sauté parce qu'il a parlé de Lord of the Ring plus tôt, fait que j'ai sauté une page dans mes questions parce que justement il a fait référence à Ganner.
Il me semblait qu'il en manquait une, la fameuse question de Ganner, oui.
Exactement. J'avais demandé ta référence à Ganner, est-ce que c'était directement à Lord of the Ring? Puis il a dit non. Non, c'était pas ça, c'était un autre c'était un roman grec, on dit. De la manière, je me souviens pas,
c'est une légende romaine,
c'est ça.
C'est Horace au pont, okay. Qui justement empêche les...
un par un, les ennemis.
Les barbares d'entrer à Rome, mm-hmm. Qui les prend un après l'autre, là, qui les
tue. Exactement. Puis justement, si c'était une référence à cette scène-là, le None Shall Pass, mm-hmm. Là, quand Gandalf coupe le pont, là, avec... Il dit non, c'était pas directement ça, mais qu'il aime beaucoup... il a beaucoup aimé Fellowship of the Ring, le film... Plus que Two Towers, qui trouvait que les batailles étaient excellentes, mais que le côté histoire l'arrachait un peu.
Il avait pris une petite slack. Pour expliquer un peu aux gens, ceux qui n'ont pas lu les livres, c'est que...
Ils ont coupé bien des bouts.
Ils ont coupé, dans Two Towers, ils ont coupé énormément de bouts, mais c'est que la première... En admettant qu'on mettrait le livre en quatre divisions, là, le trois quarts du livre se passe à Helm's Deep. Puis c'est toute la bataille, toute la grosse panique là-bas, la grosse dépression de tout le monde là-bas. Puis après ça, le dernier quart du livre, c'est l'histoire de Bilbo. Mais, sincèrement...
Bilbo, Frodon.
Excusez, Frodon qui s'en va justement avec... avec Sméagol et compagnie. Mais c'est quand on lit le livre, tout cas, moi, j'ai trouvé que le deuxième tome de Lord of the Rings était extrêmement long, parce que justement, le premier, c'est tout noir, c'est sombre, c'est déplacé. Puis là, mané, ah, youpi, hein. Puis là, finalement, on retombe à Frodon, puis l'histoire de Frodon. Mais ce que Peter Jackson a fait, c'est qu'il a entrecoupé ces histoires-là. Je trouve qu'il a très bien fait ça. Je trouve qu'il a rendu The Two Towers extrêmement intéressant, mais c'est pas le cas pour Matthew Stover, qui lui a trouvé qu'il aurait peut-être dû mettre plus
de. C'est peut-être l'ajout de scènes qu'il n'y a pas dans les livres, ou c'est comme Aragorn qui tombe en bas de la falaise, ou whatever.
Etc.
Bon. On va revenir sur Star Wars. Et on va créer une émission sur Lord of the Rings.
C'est ça.
Lord of the Rings en direct.
The one ring that net show.
C'est ça. Bon. Bon, j'ai demandé qu'il savait bien entendu comment que la série NGO finissait. Se terminait.
La réponse, je le sais pas tantôt.
C'est ça. Il dit, pas vraiment, c'est ça.
Parce que c'est toujours en mouvement, le futur.
Exact. Ça a beaucoup évolué depuis la dernière fois qu'il y a eu accès à la Bible, qui était dans Traitor, qui était approximativement dépassé le milieu un peu de la série, mais dépassé un petit peu une série de 19 livres, il en reste
pas mal.
Beaucoup que tu n'as pas eu d'informations. Donc, il sait, oui, comment ça finit. Il dit, on peut l'imaginer comment ça finit, mais de quelle façon ça va finir, ça, c'est autre chose.
Est-ce que les fans vont être surpris de la question qu'on demande à plusieurs de, mm-hmm. nos fans? Ils ne pensent pas que ça va surprendre les gens
autant
tant que ça maintenant. Puis ça, c'est vraiment ce que je trouve que ce gars-là, il a compris un peu ce que moi j'ai compris, c'est qu'à force de lire des livres, on finit par s'habituer à une espèce de redondance dans l'histoire. Mm-hmm. Puis ça commence, on voit que ça commence à se répéter justement les histoires dans la série NGO. Et puis c'est ce qui va probablement arriver avec la fin. Je veux dire justement comme on lui a demandé vers la fin pour revenir sur cette question là. Est-ce que tu penses que c'est Kip Duran qui va mourir et qui va être l'un des principaux des principaux personnages à mourir vers la fin là, parce que Kip Duran a pris une énorme place dans la série NGO quand même. Là il dit je pourrais vraiment pas répondre à cette question là.
Ensuite. Question que tout le monde nous dit que c'est une question incroyable, donc on va continuer à la poser. À quel niveau il était un fan de Star Wars avant d'écrire un roman, et puis à quel niveau il est maintenant? J'en ai sauté une, on va revenir.
J'en ai sauté. Ouais. Alors, il dit que maintenant, il est un plus grand fan, mais pas depuis qu'il a commencé à écrire Traitor, c'est depuis qu'il a signé le contrat pour Traitor. Là, c'est quand même un hype, là, c'est,
ouais.
J'ai un contrat de Lucasfilm dans les mains. Puis il expliquait justement, quand il était jeune, il est allé voir énormément de fois les films.
Il se souvient surtout de Return of the Jedi, qui était son préféré.
Son préféré, c'est ça, puis qu'il avait été à plusieurs représentations de Empire Strikes Back à un
temps. Un rabais, ouais, c'est ça. La question qui me surprit le plus de sa réaction, m'a dit, il en voulait pratiquement à certains fans. C'était vraiment. On lui a demandé, en tant qu'auteur, qu'est-ce que vous. C'est quoi tes commentaires si on considère l'univers étendu l'histoire de.
L'histoire originale
des films. Puis qu'est-ce qu'il dirait aux fans qui
disent que l'univers étendu, ça vaut pas de la chenoute.
Exactement. Bon, comparativement à l'histoire des films, parce que c'est pas George Lucas.
C'est ça. Il y a eu comme une petite pause, puis sa réponse a été stricte, nette et claire, puis je suis d'accord avec lui. Get a life. Mais c'est là qu'on voit que ces mots-là, dit dans un bon contexte comme lui vient de le faire, ça peut avoir une toute autre considération que la façon que George a pu le dire il y a quelques années, puis que William Shatner a pu le dire il y a quelques années aux fans de Star Trek. C'est. Si ça vous tente pas de les lire, les livres de l'univers étendu, yeah, c'est correct. Mais de rester là puis de dire que ça vaut pas la peine, que c'est ridicule de lire ces livres-là,
puis de chialer après pour dire que c'est pas bon.
De chialer après pour dire que c'est pas bon sans même les lire. Il va même pas prétendre d'essayer de comprendre la logique derrière justement ces commentaires-là. Puis, ce qu'il nous expliquait, c'est que George Lucas a justement dû faire la prélogie à cause de la popularité de
l'univers étendu.
Des bonnes ventes de l'univers étendu. C'est là que j'avais d'ailleurs nommé Splinter of the Mind's Eye, qui, je crois, était le premier roman.
Oh, oui. Ça a été fait avant qu'Empire Strikes Back soit fait. Mais lui, il parlait de l'ère thématisante. C'est ça qu'il a dit,
commençait depuis Timothy Zahn.
Ben, il parlait de
la nouvelle ère. Ben, ses livres préférés, c'était Han Solo.
Il parlait ça de la Han Solo Trilogy qui est sortie dans les années 80 en premier. Là.
Ça, mais il a dit Timothy Zahn, donc, ouais. À partir de ce moment-là, parce que...
Qui a donné un regain d'énergie. C'est vraiment depuis The Zahn Trilogy que ça l'a reboosté.
Puis, je sais pas si c'était pour se venger ou quoi que ce soit, il faisait référence à une convention quelconque qui avait... Un Darth Vader, il nommait tous les costumes.
Ben, il a fait une signature de livre, en fait, dans une, je pense que c'était à San Diego, quelque chose comme ça. Puis il disait justement qu'il y avait probablement le groupe Fanforce local, avec toutes sortes de personnes costumées, ou les 501st puis Rebel Legion qui étaient là, puis qu'il y en avait à peu près la moitié qui avait acheté son livre, puis l'autre moitié qui disait que ça valait même pas la peine, puis que c'était poche, puis tout ça.
Non, je pense que c'est dans toute la convention, il n'y a pas eu beaucoup de monde qui ont acheté de romans, quelque chose comme ça. Puis il disait que c'est comme il trouvait ça ridicule que les fans considèraient juste les films.
Parce que ce qui expliquait aussi, c'est que quand on lit un livre, faut qu'on sorte de notre imagination. Mm-hmm. Ça demande des choses. Il y a des gens qui préfèrent s'asseoir devant une boîte puis avoir toute l'histoire qui va leur rentrer dans la gorge.
Comment est-ce qu'il disait? Il dit feed? Non, c'est comment qu'il disait?
Qui va rentrer dans...
Ben,
dans
se faire gober de l'information, d'histoire toute préfaite. C'est ça qu'ils demandaient, c'est pas tout le monde qui sont capables, qui sont habitués de lire, parce que justement, ça demande une qualité. Il faut que tu apprennes à lire, dans le sens que... pas apprendre à lire...
En disant l'alphabet, là.
Ouais, c'est ça, mais apprendre de la lecture sérieuse.
C'est ça, faire la lecture sérieuse, puis être capable d'imaginer les scènes comme on les voit, tu sais, comme... Ceux qui n'avaient pas l'imagination, ceux qui n'ont jamais lu Traitor, puis qu'on parle de la scène de Ganner où il embarque sur un pont puis il dash all not past.
C'est pour, nous autres, c'est fin parce qu'on se l'imaginait, on la voit très bien. Puis ceux qui n'ont jamais lu le livre, qui ont juste vu les films, comment expliquer cette scène?
Eux autres, tout ce qu'ils vont voir, c'est Gandalf.
Couper le pont, là, mais c'est ça. C'est pas ça du tout. Ok, ensuite... des commentaires sur la trilogie. Comparativement à la trilogie, lui, c'est carrément la trilogie qu'il préfère, c'est bien sûr. Tu avais posé une question par rapport au midi-chloridien.
Midi-chlorien à la fin, c'est ça. Lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il trouve ça dommage. Attends un petit peu, on va descendre en bas. midi-chloriens. C'est qu'ils sont rendus mes midi-chloriens. Ok, ouais, c'est ça. Merci. Il trouve que lui c'est pas il les admire pas tant que ça. Il trouve pas que c'est vraiment une super,
ils haïssent pas, mais c'est pas une bonne idée.
Mais surtout pour une raison particulière, c'est que ça enlève la fantaisie
qu'une
personne ordinaire peut devenir un Jedi. Mais il en phase quand même sur le fait que ils haïssent pas, là, mais c'est dommage qu'on enlève ce concept-là d'une personne ordinaire comme Luke, qui est un nobody, que si on écoute les audio romans, on voit que c'est quasiment même un rejet dans son groupe, là, puis qu'il devient le héros de la galaxie, là, en bout du compte. Alors, Giseline, si tu nous écoutes...
On n'en a pas parlé, d'ailleurs.
Ça s'en vient. J'ai failli demander ce qu'il en pensait, mais je me suis dit, ça vaut peut-être pas la peine.
Ok. Expectation en français, ses attentes pour l'épisode 3, il a dit ben des morts, ben de la bataille. Beaucoup de batailles, beaucoup de morts.
C'est sûrement ce qui va arriver.
J'imagine.
Lui, il est évidemment spoiler free, comme on dit.
Comme beaucoup, ben, beaucoup d'auteurs ne veulent rien savoir d'avance.
Mais comme tous les autres auteurs, si on lui donnait le script, il lirait.
D'ailleurs, il a dit qu'il avait lu le script de l'épisode 2, ben, le draft de Salvatore. Sur l'épisode 2 avant que le film sorte, donc il savait l'histoire du film avant d'avoir vu le film. Il faut baisser le volume de la musique un peu. On est dans un bout assez fort, c'est pour ça.
C'est cela. Alors, c'est ça. Alors, on lui a parlé par rapport à une histoire pour l'Insider. Il a été approché au dernier San Diego Comic Con. Il en a parlé avec
le directeur du Insider,
c'est ça, Dave d'Insider, qui lui a dit...
Un petit déjeuner... Ça tente-tu d'écrire cette histoire-là?
C'est ça, il parlait d'une histoire avec, puis là, lui, il a eu « Ah oui, ça serait le fun », puis il y avait plein d'idées qui sortaient, sauf qu'il a bien de la misère à faire quatre choses en même temps, puis là, ben, il est en train d'écrire un roman, fait qu'il essaie de trouver le temps pour écrire l'histoire, justement, pour l'Insider. Mm-hmm.
Et puis ensuite, c'était les questions pour les fans.
Ensuite, c'est qu'est-ce qu'ils aimeraient écrire.
Oui, c'est intéressant, ça. Quelle histoire qu'ils aimeraient raconter.
C'est ça. C'est
s'il y avait encore la chance de travailler pour eux.
Les aventures finales de Luke, Anne et Léa. Pas nécessairement
la mort.
Leur mort, mais d'écrire quand ils sont vraiment rendus très vieux.
Quand ils décident d'abandonner l'aventure plus, là, ils prennent leur retraite. Là.
C'est ça.
J'imagine leurs dernières aventures, puis après ça, ils disent « Ouais, on devrait arrêter. » Fait
que là, moi, ce que je voyais, c'est vraiment un petit peu le Batman de New Era, là, que Bruce Wayne est rendu tout vieux, là, puis quasiment dans sa chaise roulante. Là. je voyais comme Luke dans son espèce de chambre
sur
de méditation.
Sur Dagobah avec...
non, dans sa chambre de méditation sur Yavin, parce qu'il...
Avec un fauteuil anti-grave.
Ouais. Mettons qu'il l'aurait reconstruit, là, sur Yavin, puis là, il serait en train de méditer, puis là, t'as son petit-fils qui arrive en courant, « Grandpa, Grandpa!
» T'avais des questions de fans ensuite?
Oui, exactement. Alors, il y a Jeremiah qui demandait quels sont les rapports qu'il a eu avec Lucasfilm, comment ça se passe pour écrire un roman, on lui propose une histoire de base, après ça, c'est à lui de développer tout ça. Pour NGO, justement, comme il nous disait plus tôt, c'est vraiment, il est allé à Skywalker Ranch avec Shelley, James puis Troy. Mm-hmm. Shelley, elle a pris des noms de Jedi qui existaient dans l'univers. Elle a tout écrit sur un tableau à craie, puis elle a dit
il y en a
c'est tous les Jedi. Il y en a trop dans l'univers, il faudrait qu'il y en ait quelques-uns qui meurent. Fait que là, elle a commencé à pointer du monde, apparemment. Puis il est arrivé sur Ganner, puis il a dit moi, ça me tente.
C'est ça, il aimait pas ce personnage particulièrement. Il a aimé comment que Troy Denning l'a amené dans la série Nouvelle Ordre Jedi. Lui, il a bien aimé. Il a commencé à l'aimer quand il l'écrivait, mais il écrivait sa mort.
Mais c'est parce
aussi.
Que j'imagine quand il a vu l'histoire de Troy Denning, qu'il a fini de la lire puis qu'il a commencé à écrire lui-même son histoire pour Ganner, il a dû faire « Damn you, Troy! » comme on voit, parce que c'est ça, une des redondances de la série NGO, c'est que toute personne qui commence mauvaise et se tourne en un héros finit par mourir.
Mm-hmm.
Si cette personne est un des caractères principaux d'une série de Kevin J. Anderson, il y a encore plus de chances qu'il meure. Ce qui nous amène, ce qui va nous amener une autre question de fan un petit peu plus loin. Puis pour Shatterpoint, pour revenir à la question de Jeremiah, c'est que il n'y avait pas vraiment de concept difficile, plus que n'importe quoi. Mais ah non, c'est toi ça. Excuse-moi. Pour Shatterpoint, c'était lui qui écrivait tout ce qui se passait entre tel moment puis l'épisode 3. Mm-hmm. Il y avait le début de la fin, mais c'était vraiment...
pas l'épisode 3 parce qu'il y a d'autres romans qui viennent.
C'est ça.
Avant, mais il y avait un point de départ et un point d'arrivée. Il fallait qu'il écrive entre les deux.
Fallait qu'il soumette des choses à Lucasfilm, puis eux autres disaient oui, ça a de l'allure. Oui, c'est OK, c'est le fun.
Ça rentre dans nos concepts,
c'est
dans
ça.
Nos idées.
C'est correct. Quel était le concept le plus difficile à développer dans Shatterpoint qui nous était demandé par notre ami Michael ici? Salut.
Bonjour.
C'est une voix très radiophonique.
Ouais, on va y faire enregistrer des.
On va faire enregistrer des promos tantôt.
On peut toujours.
Alors, c'est ça, il disait qu'il n'y avait rien vraiment. De problèmes en soi qui est une difficulté à faire. Oui, on dormait de la difficulté, moi.
C'est à ton tour.
C'est à mon tour, c'est ça.
Chacun imagine quand tour. Tu vas faire ton show.
Ça sera pas pareil, je vais le faire en anglais, je n'aurai plus de difficulté.
Ça.
I'm very flexible, je suis fluent dans les deux langues.
Fluent.
Puis, non, c'est ça, il a dit qu'il n'y avait vraiment pas eu de difficulté dans Shatterpoint parce que c'est quelque chose qu'il avait déjà.
Pas plus lentement.
Ok. Alors, nous... je lui ai demandé si il était une personne spirituelle en tant que telle, qui était ouverte au spiritisme. Lui, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il était religieux à sa propre façon. Lui, ce qu'il croit, c'est il croit en l'existence d'énergie qu'on peut pas vraiment contrôler, mais qui nous entoure. Ça sonne familier.
Mais j'imaginais aussi, à cause qu'il faisait des arts martiaux, que ça comptait beaucoup dans cette
philosophie. Exactement, c'est quand il nous parlait du Tao oriental, tout ça. C'est pour ça que je lui ai quand même un petit peu posé la question, j'étais curieux. Et puis, c'est vraiment bien. J'ai failli lui demander, donc tu crois en la force, mais je me suis retenu.
Non, mais il disait, il croit en ce genre de truc-là, un peu comme l'existence du soleil.
Il croit en ce qu'il appellerait des personnes supérieures à nous, mm-hmm. entre guillemets, parce que c'est pas vraiment la bonne façon de les appeler. C'est plus comme ça des énergies. Là, qui nous,
ça, puis il dit, je crois en ça comme le soleil. On le voit, mais veut dire, tu sens sa chaleur. Tu sais qu'il y a quelque chose. Tu le vois pas, mais il y a quelque chose.
Exact.
Ensuite, y avait-il d'autres questions de fans? Non.
Il n'y avait plus d'autres questions de fans. Ben, il y avait la question. Attends,
ensuite, c'était.
Un troubling sur les Yous and Vong, puis je l'avais sur à propos de Kip Duran. Okay. Puis on en a reparlé.
Bon, qu'est-ce qui s'en venait pour lui? Ben, il était en train d'écrire un roman qui était une suite d'un autre.
J'ai bien compris le titre, c'est Heroes Dies in the Blade of Tai Chao. Ouais. Alors, j'ai mis un lien sur le chat tout à l'heure. Vous pouvez toujours aller voir sur ce lien-là, vous allez trouver tous les livres qu'il a écrits jusqu'à maintenant, puis vous pouvez vous procurer dans une bonne bibliothèque près de chez vous. Chapters! Ensuite, si quelqu'un de Chapters nous écoute,
c'est qui serait surprenant.
Sponsor!
Ensuite, il a demandé s'il y avait d'autres choses à promouvoir, des signatures de livres, etc. Il a dit non, il est pas mal tranquille chez lui. Il voyage pas beaucoup de ce temps-ci. C'est assez tranquille, il écrit. Puis,
Exactement. Alors, si ça vous tente de rencontrer ce fameux Matthew Stover dans un futur proche ou éloigné, on vous en prie, envoyez-nous un commentaire à swendirect.com des commentaires sur l'entrevue. Dites-nous si ça vous intéresserait de le rencontrer en personne pour discuter plus longuement avec lui. Peut-être éventuellement faire un fameux souper-site, là.
Exactement.
Avec ce fameux.
L'amener à Montréal, qui a dit qu'il a déjà passé au travers, probablement en allant dans. Ben, je sais pas.
Il a dû aller en Gaspésie, quelque chose.
Ouais, un truc du genre. Il a passé au travers de Montréal. Puis il avait dit, ah, que c'est cute, j'aimerais bien.
Il aimerait s'y retourner.
Exactement. Et c'était à peu près ça.
C'est long, cette entrevue-là.
En effet, je sais pas s'il y en a qui ont chronométré. C'est une heure et quelques minutes.
Exactement.
On va voir Bethesel de Sensui, qui est 1h15, 1h15, je crois.
Ah.
Environ. Bon, on va prendre une petite pause.
Oui. Et nous allons venir avec des nouvelles générales, des nouvelles d'événements, etc. etc.
Est-ce que t'aimes ça? Comment je pourrais dire ça? Moi, j'aime qu'est-ce que je fais présentement. Toi, t'aimes. Faire des entrevues comme ça, t'aimes-tu ça?
J'adore ça.
T'adores ça? Bon, on va écouter un lien radiophonique avec la tune des Respectable. On fait ce qu'on aime. Oh, attention. C'est mauvais, hein?
Tu l'as un petit peu moppé, celle-là.
Ouais, je l'ai moppé d'aplomb. Hein? J'ai besoin de pratique beaucoup. C'est vraiment mauvais, mais en tout cas.
On va faire un bootcamp, DJ bootcamp.
Ouais, c'est ça. Faut apprendre comment faire de la radio. On est vraiment mauvais. Donc, on vous lance ça, puis on revient après la pause.
Salut.
Warm the sunshine, so tired of the rain. Mm-hmm. C'est à l'époque où l'on voyageait, la tête en fête et pleine de projets, le tour du monde dans un camion minable et désuet, la neige en train de tous les côtés, l'hiver aussi bien que l'été. We'll be right back.
On était en train de discuter, on a pratiquement oublié que la chanson finissait.
C'était les Respectables avec On fait ce qu'on aime faire.
Ouais, exactement.
On aimait parler.
Exactement. Bon, ben maintenant, c'est le temps de la chronique événement. Avant de parler de la sortie de cette clan,
oui.
On va parler de qu'est-ce qui s'en vient comme sortie dans toute la communauté francophone, autant ici qu'en Europe.
C'est-tu un grand noise? Excusez-nous de demander ça.
Oui, mais c'est pas plus grave que ça. C'est assez minime.
Okay. Bon, c'est pas grave. Non, c'est, je sais d'où ça vient. C'est beau.
OK.
En tout cas, c'est pas grave. Ça vient de quelque part dans notre micro. Mm-hmm. Live radio.
Exactement.
Les jouets. Alors, rapidement, dans les nouvelles du monde entier, on va parler qu'il reste présentement juste une trentaine de jours avant... La fin du tournage de l'épisode 3, du tournage principal de l'épisode 3, dans les studios de Fox en Australie.
Ça a le rapport aux sorties francophones?
Ça n'a pas rapport aux sorties, c'est ça, c'est les nouvelles du monde.
Okay.
Après ça, c'est la section événement. Okay.
Les nouvelles internationales.
Les nouvelles internationales. SW5. Vous écoutez le point.
Alors, avec 8 mutaises.
Avec 8 mutaises, et voilà. Alors, niveau convention, il y a la fameuse Dragon Con qui s'en vient à Atlanta à la fin août. Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement ne sera pas assisté par les quelques fans de cette là qui ont les moyens de se rendre là-bas parce que les fans de cette là vont être ailleurs. On y revient un petit peu plus tard. Et toujours chez nous, au Québec, le fameux Star Wars Kid.
Oh, bien sûr.
Les parents du Star Wars Kid... retourne de plus belle avec une belle poursuite sur les quatre familles des quatre enfants qui ont digitalisé le petit film du pauvre Ghislain. Et on a fait des démarches, on a retracé entre guillemets où se trouve Ghislain. On va essayer d'aller lui parler, le réconforter, le ramener à la réalité des fans de Star Wars. Et on voulait vous dire qu'on a contacté Lucasfilm par rapport à la situation du Star Wars Kids. Et Lucasfilm, malheureusement, ne pouvait que nous dire ceci. Alors, il trouve que c'est très dommage toute la mauvaise publicité qui a été faite autour du Star Wars Kids. C'est dommage pour la mauvaise publicité que ça lui amène à Ghislain, à lui-même, ainsi qu'à sa famille. Mais, étant donné qu'ils ont pris des actions légales contre les autres familles, Lucasfilm ne prendra pas part à toutes ces actions-là et ne pourront pas l'engager
pour être dans
l'épisode 3. Alors, on est désolé pour la personne qui, sur le set de l'épisode 3, nous avait montré à la webcam que ça serait possible, non, d'avoir Ghislain pour l'épisode 3.
Moi, je dis ça peut être possible si les procédures se terminent avant la sortie du film, puis dans des reshoots, des tournages ultérieurs.
Très, très rapidement, là, quelque chose qui pourrait se passer comme ça.
Mais pour l'instant, c'est non.
Malheureusement, pour l'instant, c'est non. Et musique.
Et musique?
Je pense que c'est ça qu'il voulait dire.
Ah.
on s'habitue.
J'ai rien touché. Ça dépend des bouts. Ouais, des bouts de musique.
Alors, et voilà, c'est ce que le porte-parole de Lucasfilm avait à nous dire. Alors, juste avant d'entamer la chronique événement, on va parler d'un événement qui a eu lieu hier même. Alors, plusieurs fans de ce clan étaient à la ronde,
bien sûr.
Alors, je vais laisser notre ami Michael. Ça va bien, Michael?
Ça va bien,
Skywalker,
vous?
Des forums. Ça va très bien. Alors, il est venu des fins fonds de, du Outer Rim québécois.
De son Tatooine profond.
De son Tatooine profond qui était Fern Mines pour venir assister justement
à
cet événement, cette année. Alors, comment tu résumerais la journée d'hier?
Tu as été là toute la soirée complète.
Du début
la journée,
à la fin.
C'est ça.
Inéductible.
Exactement.
Ah, j'ai adoré la journée. Je suis content parce qu'il y a encore plus de fans que l'année passée. On voit qu'il y a une progression, toujours plus de monde à chaque activité. Il y a toujours des nouveaux aussi. Donc, cette année, on avait 3 nouveaux. L'année passée, j'étais un nouveau. J'avais un nouveau. Mais c'est intéressant justement de voir que c'est pas toujours les mêmes, qu'il y a toujours des gens qui se rajoutent. Mm-hmm. Okay? Donc, ça amène une diversité dans les activités. Mm-hmm. Ça amène quelque chose de nouveau.
Du nouveau sang.
C'est ça. Donc, ça amène. Je veux dire,
il y a encore un espoir pour le fandom.
Oui. On peut voir qu'il n'y a pas juste des gens de Sedgefur Minds qui peuvent venir. C'est ça. Personnes proches, mais c'est ça qui est le fun. Puis, il y a beaucoup de gens. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens à Montréal qui nous écoutent présentement. Beaucoup de gens qui viennent sur ce clan, qui connaissent le site, qui sont de la région, puis qui pourraient venir. Ben, ce que je vous dis, c'est participer, venez, on a beaucoup de plaisir. À la ronde hier, c'était fantastique, à part les fois où on était pogné dans les manèges.
Ben d'ailleurs, explique-nous donc ça.
Oui, j'étais pogné dans le condor avec Danny en haut, tout. Le manège arrête, tout comme ça. On a resté 5 minutes jamais en haut.
À peu près 100 pieds dans les airs.
Oui, oui.
Heureusement, ça tournait plus.
C'est non. Ça, le gars était dans sa cabine, puis il comprenait pas, il a pas vu que... Il n'y a rien qui se passait.
Le Millennium Condor avait quelques petits problèmes techniques.
On peut voir que les employés de la ronde veillent au grain. Ils regardaient très bien ce qui se passait.
Exactement. Exactement. Vive les syndicats.
Oui.
On a fait plusieurs manèges. Bon, le vampire, on a tout...
Trois fois.
Ouais, trois fois. Quatre fois.
Oui, on a eu un rappel en fin de soirée.
Ouais, c'est
ça. Alors,
les nouveaux qui se sont présentés, tu avais un qui s'appelait Gabs. Très intéressant. C'était un... Personne assez âgée, doit avoir mon âge environ.
Peut-être une petite affaire plus jeune, mais il est dans ton âge, je dirais. Une trentaine d'années, probablement. Peut-être une petite affaire plus jeune. Mais on voit qu'il
y a un grand fan.
Un grand fan, parce qu'il a quand même assisté à Empire Con 1.
C'est ça. Un gars qui faisait les costumes, il avait l'air d'en connaître beaucoup sur ça aussi.
Puis très enjoué aux sorties. Il a vraiment aimé ça, je crois. Je pense qu'on va le revoir.
On lui donner la figure.
Exactement. Exact. Ensuite, tu avais Latouf, qui est un Polonais, en fait.
Oui.
Qui habite au Québec.
Il avait vécu 5 ans en France.
Exactement.
Aussi. C'est pour ça, au début, on croyait que c'était un Français.
Et oui, il a participé à tous les manèges. Donc, l'honneur des Français est sauvé à la ronde.
Parce que Jérémy nous avait laissé tomber l'an passé.
Pour un manège.
Oui.
D'ailleurs, on va avoir quelques photos.
Quelques années.
Au début de la semaine, on a fait un hommage à Jérémy. Et puis on
plus
a fait...
qu'un, je crois.
Alors, surveillez cette lampe pour des surprises.
Exactement.
Par rapport, justement, à cette sortie. Et autre chose à dire sur la sortie, à part le fait qu'en soirée...
On était bien. Il a fait beau toute la journée. Il faisait frais. Ouais. Et le soleil est sorti à un moment donné. Mais la plupart du temps que c'était nuageux, c'était excellent. C'était le fun, on riait beaucoup. Puis
on a eu Pittsburgh qui était nouveau aussi.
Oui, Pittsburgh, c'est vrai. Mercenaire depuis...
Ouais, il nous écoute d'ailleurs, probablement.
De longue date, là, c'est un membre de longue date qui est mercenaire. Puis c'est la première fois qu'il venait, puis je suis certain qu'il va sûrement revenir encore.
Ben, j'avais failli le faire venir cet hiver, puis là, ben, en ne lâchant pas prise, il est venu.
Exactement. On voit que même...
Mm-hmm. Je crois que j'ai demandé dans la journée, puis il a dit qu'il y avait beaucoup de plaisir, donc je crois qu'on va le revoir.
C'est ça.
Puis ça te donne
exactement.
Ça te donne un indice, les autres, là, combien on peut avoir du plaisir ces journées-là. Puis bon, c'est sûr, la ronde, ça coûte plus cher, mais on est capable d'avoir d'autres activités qui coûtent pas vraiment cher.
C'est pas nécessairement juste les jeunes là, qui aiment ça. Regarde-moi, Gabs, Dark Mark, etc. C'est pas des ados, là.
Ça, regardez, moi, j'ai 20 ans, Denis a 31 ans.
Il n'y avait pas de barrière, vraiment.
C'est ça, puis comme... si vous venez, vous avez 15 ans, on ne vous refusera pas. On va vouloir avoir du plaisir avec vous aussi. Là. Mm-hmm.
Vous faites partie de la famille des fans de Star Wars.
Et voilà.
On veut vous voir, on veut vous découvrir. Venez nous rejoindre.
Exactement.
D'ailleurs, je vais me permettre quelques petits trucs pour la sortie à Québec qui s'en vient. S'il y a des gens qui voudraient nous joindre.
La première sortie de la liste.
Exactement.
La prochaine à Québec.
Ça pourrait
être clan.net à Québec.
Ça pourrait être super intéressant. Alors, moi, je suis allé les rejoindre en soirée parce que durant la journée, j'ai rencontré le conférencier Pierre Lassalle, qu'on va peut-être, suite à plusieurs discussions, faire une émission de Star Wars en direct sur cet homme. Alors, Danny qui me fait des gros signes de la tête, non, il n'y en est pas question, attends un peu. C'est par rapport aux héros surtout, et surtout que Pierre Lassalle se base sur la Guerre des Étoiles pour écrire ses romans et faire ses conférences pour les 12 étapes du héros.
Attention.
C'est quand même intéressant. Donc, on va dans un futur éloigné. Là,
on a beaucoup de priorités.
On a d'autres choses à faire avant ça, là, ça c'est sûr et certain. Dire, éventuellement, quand on n'aura plus aucune idée, là, on pourra...
Quand qu'on va avoir du temps, là, un jour.
Exactement. Dans 2 ans.
Pierre Lassalle, quand même quelqu'un de très intéressant. Alors, pour ce qui est des événements à venir, alors 30 et 31 août prochain. Alors, on va commencer à l'étranger. Puis on va finir ici au Québec. Alors,
ben, c'est à l'étranger pour nous animateurs, mais ça peut être chez vous, auditeurs.
Auditeurs, à moins que vous. Ben, à Atlanta, je pense pas qu'ils nous écoutent, mais il y a le Dragon Con qui va avoir lieu à Atlanta, okay. Qui est une très grosse convention où Lucasfilm font très souvent des annonces. Personnellement, je suis déçu qu'il n'ait pas encore annoncé l'endroit où aura lieu la prochaine Star Wars Celebration. C'était peut-être dû pour être annoncé à la San Diego Comic-Con. Là, c'est peut-être dû pour être annoncé à Dragon Con.
C'est peut-être parce qu'ils reconsidèrent Indianapolis pour
c'est
un autre endroit.
C'est exactement cela. Mais très franchement, des rumeurs qu'on entend, il y a des grosses chances que ça retourne à Indianapolis étant une place très centrale. C'est énormément. Puis pour ceux qui trouvent que ça coûte énormément cher, une convention comme ça, pour 3 jours, ça m'a coûté 800$ en tout. On parle des États-Unis, je parle de l'avion aller-retour, du billet pour la convention les 3 jours. C'est... Puis là-dedans, je compte aussi 8 York Secours à 10 pieds à chaque, c'est déjà 80$.
Il n'y avait pas de limite de 2.
Par achat. Et c'est cela. Alors, ils en ont manqué finalement aussi.
Sébastien est passé trop souvent.
Non, il y en a des pires que moi. Laisse pas te le dire, j'en ai vu des pas mal pires que moi. 3 boîtes de York Circle sortir en même temps, là. Je les trouvais fortes, celles-là. Alors, c'est cela. Il va y avoir une sortie Citlan à Paris les 30 et 31 août prochains. Alors, je vous invite à passer par la section événements de Citlan.net pour avoir tous les détails par rapport à cette sortie.
Ou cliquez sur la bannière de la colonne de gauche.
Exactement.
Citlan sort cet été ou quelque chose comme ça.
C'est toi qui l'as fait, t'en sais même pas.
Bien oui.
C'est bien d'année.
Citlan prend l'air. C'est quelque chose comme ça.
Citlan prend l'air. Alors, on voit d'ailleurs les beaux petits autocollants de petites valises qu'on met sur notre... On va faire une valise à Bob, puis on va y mettre des autocollants comme ça.
Bob qui est notre mascotte en passant, c'est pour ça.
Le petit Jawa qui n'est pas là aujourd'hui, il se repose de la ronde hier. Il s'est bien excité dans le dragon.
Il était malade dans le dragon, ouais.
Contrairement à Fred Lapoutre, il était malade en sortant d'un autre manège.
C'était horrible.
Plus à venir.
3 petits points.
Exactement. Et les 30 et 31 août prochains, Citlan.net sera de passage à Québec City, la capitale nationale de notre beau
province,
qui est le Québec. Bon timing, Danny, bon timing. Alors, on va être là. On va aller probablement se promener sur la Grande Allée.
En soirée. Le jour, on n'a pas les activités encore qu'on va faire. Probablement dimanche, on va aller au spectacle aérien qui a lieu à Sainte-Foy. Et puis, on va peut-être faire des choses sur place, là, jeu de rôle ou peu importe, entre les performances
exactement.
Aériennes.
Alors, le vol des Jedi Starfighter est déconseillé. On vous demanderait de vous restreindre d'utiliser la force sur le terrain aérien. Et s'il vous plaît, gardez vos sabres laser à votre ceinture.
Exactement.
Pour éviter tout accident. Et voilà. Alors, ceux qui voudraient beaucoup plus d'informations, on vous invite à passer, évidemment, sur Citlan.net par la superbe bannière que nous a fait Danny pour Citlan prend l'air cet été, pour plus de détails sur toutes ces sorties-là. Vous pouvez aussi passer dans les forums, dans la section rencontres et événements. Et pour nos amis des 501st français, des 501st belges et nos amis de la LCF, la Ligue costumée francophone.
Ouais, et Star Wars Universe aussi, j'imagine.
J'ai pas rien vu de Star Wars Universe aujourd'hui. Imagine-toi donc. Mais en tout cas.
Mais la sortie Halloween, c'est eux autres.
Okay,
avec la LCF.
Les gens de Star Wars Universe, on vous invite à venir mettre cette sortie sur les forums de StarWarsEnDirect.com dans la section rencontres et événements. Alors, on peut voir là tous les événements qui s'en viennent au courant de l'automne, au courant du mois de septembre. On va revenir lors de la prochaine émission, justement, pour ce qui est des sorties des regroupements francophones outre-mer.
Exactement. Donc, la prochaine outre-mer, c'est le sortie Halloween, non?
Non, c'est le 21 septembre à Bourget.
Bourget.
Qui se trouve à être... Je viens de le fermer. Comme on appelle un espèce de salon de collectionneur, si je ne me trompe pas.
Salon de collectionneur du Bourget.
C'est pas en Belgique, je crois.
Ouh, possible.
Pas impossible.
C'est parce que j'ai vu, en tout cas, une sortie d'événement sur le forum, là, puis ça parlait, il y avait quelque chose en Belgique.
Faut que tu fasses tes devoirs, Sébastien.
Mais c'est parce que présentement, on n'est pas encore rendu là. Moi, j'ai une autre émission qui s'en vient. Moi, je vais parler des événements qui s'en viennent d'ici à l'autre émission, puis après ça, je parle des événements qui s'en vont plus loin.
OK.
Je vais parler de l'actualité d'Annie.
Ouais, attention.
Non, mais c'est deux mois. Là.
Non, mais c'est le fun pour les partenaires de se faire entendre aussi.
Je les ai nommés, j'ai dit où aller chercher les informations, je le répète, forum rencontre et événements de swendirect.com et gênez-vous pas pour poster vos événements si vous êtes un groupe et que vous en avez, que vous organisez, peu importe où vous trouvez. Alors, si la communauté Star Wars francophone du Vars francophone va faire du plantage d'arbres pour... replanter là où les arbres ont brûlé en France. Venez me poster là, ça va nous faire plaisir de vous d'en parler. Et voilà.
Hey, y avait-tu d'autres choses par rapport que vous vouliez revenir, non? Plutôt non?
Je crois que là, on est correct. On en serait rendu à parler pas mal de nos superbes commanditaires.
Ah, bien sûr que j'ai pas la liste, mais on va aller sur le site.
J'en ai prête, là.
Okay.
Alors, on parle de lcf-sw.com, fanwars.be, r2d2menace.com, fanwars avec un z.com, univers-1.fr.st, starwarsuniverse.com, roger-1.net, starwars-lenet.com, www.r2.net.
R2. Le magazine R2.
Le magazine R2.
Et les commanditaires, vite, faut que j'ouvre mon...
Alors, les commanditaires, on a Legends Action Figures, évidemment, qui sont sur la rue Saint-Hubert, avec d'ailleurs une très belle exposition de Nyum Nyum's Universe.
Notons que Legends Action Figures a grandi.
Oui,
bien sûr. Pour vous offrir encore plus de services et...
De produits.
Mais non, Michael, tu travailles-tu pour Legends Action Figures?
Je ne sais pas. C'est José, je veux une cote sur ça.
Et Collection Plus, bien sûr, sur la Rive-Sud, ainsi que Priorité Collection, le plus récent que vous avez entendu dans les promotions lors de la pause. Toy Maniac. Oh, mais là, je suis en train de faire ceux de Citlan.net. Je ne l'ai pas aujourd'hui. Les sorties Citlan, ça brûle quelqu'un.
Exactement. Alors, vous voyez à quel point on se défonce lors des sorties Citlan. Venez nous rejoindre.
Mais ça a duré combien de temps? Hein? De 10h à 10h. 12h, la sortie.
12h de temps. Tu sais que Vincent Québec, on va péter ça, moi.
Ben là, c'est sûr. Bon, Citlan.net, bien sûr. Qui fournit le budget pour l'émission. Ben, moi, après.
Ami Pépin.
Ouais, OK.
Employé du mois. À l'année longue.
Legend Action Figure, Star Wars Galaxy France, Collection Plus et Priorité Collection. Bien sûr, tout ceci ne serait pas rendu possible sans l'aide de SimpleNet. simple-net.ca qui est nos serveurs officiels,
nos hébergeurs,
d'ailleurs on avait un problème au début de l'émission et puis qui ont solutionné le problème en 5 minutes
rapidement.
Après un petit appel un dimanche après-midi, j'entendais des enfants pleurer en arrière quand j'y ai téléphoné.
Voyez, c'est du très bon service qu'ils ont.
Exactement, donc on vous les conseille grandement.
Oui. Alors, juste pour revenir rapidement sur la sortie à Québec, parce que j'ai dit que je parlerais de trucs pour la sortie à Québec. Vous voyez, il y a probablement certains d'entre nous qui vont résider dans les chambres d'hôtel là-bas sur As.
Dont moi.
Dont.
Et probablement Marie-Claude et François aussi, Raven.
Alors, moi, évidemment, je vais probablement résider dans une chambre d'hôtel. J'ai quelqu'un ici sur le chat, Snowtrooper, qui va probablement vouloir résider dans un hôtel aussi. Alors, moi et Snowtrooper, on va probablement partager une chambre. Ça, c'est une façon effective de réduire
les coûts
d'une sortie. Là. Vous voyez, au lieu de payer 100$ chacun pour chaque nuit, on va payer 100$ chacun pour deux nuits.
Mm-hmm.
Ah!
50$!
Fait que s'il y en a qui voudraient se joindre à nous et dormir...
Ou qui n'ont pas d'hébergement à Québec, ils peuvent avoir de la parenté toujours.
Exactement. Alors, ceux qui n'ont pas d'hébergement, qui voudraient venir à la sortie, alors visitez les forums de cette
année. Aux sorties!
Qu'on donne des
litres. Guillemets.
Ouais.
C'est une fin de semaine.
On s'entend, bon. Alors,
un week-end.
On donne des lifts pour commencer. Ensuite de ça, l'hébergement, si vous avez personne là-bas pour vous héberger, écoutez, dormir à 6 dans une chambre d'hôtel, là, c'est très, très faisable. J'en suis la preuve vivante. Je l'ai fait à 7 dans une chambre pour 2 personnes à Indianapolis. Je suis encore vivant pour en parler.
Sébastien Belpin.
Non, en fait, j'avais la chaise. et je maintiens mon
pas statut. Pas ta chaise Dartmouth.
Non, et je maintiens mon statut. Je veux les chaises parce qu'on dort tellement bien dans les chaises d'hôtel, mon homme. Si vous saviez, vous dormiriez même plus dans les lits. Alors, on va voir. Probablement qu'on va peut-être même organiser un petit room party, entre guillemets. Moi, Snow Trooper, faut qu'on en parle.
On va déjà finir tard de veiller sur la Grande Allée. Faut falloir voir.
Un room party, mon homme, c'est jusqu'à 5h du matin.
Ouais, mais on va finir là. Mais je veux dire, faut quand même.
On verra.
Faut être d'aplomb pour le
lendemain. Ça va être ceux de l'hôtel qui vont être probablement là. Les autres vont aller se.
On va avoir du fun. C'est ça qui est sûr et certain.
Comme toujours.
C'est ça le but, c'est ça qui est le fun. C'est le fun d'avoir du fun, Michael.
J'adore ça.
Bon. Tu vas-tu revenir à d'autres sorties cette semaine, Michael?
Sûrement, oui, sûrement. Il faudrait que Sébastien m'héberge encore une fois.
Tiens, là ton 50$.
Justement, je voudrais remercier Sébastien de m'avoir hébergé cette fin de semaine et Danny qui l'avait déjà fait auparavant.
Ça me fait énormément plaisir.
Donc, sans eux, je pourrais pas venir pouvoir vous parler aujourd'hui.
Puis je vous le dis, là, si vous avez besoin d'hébergement, là,
pour les sorties, ouais.
Envoyez-moi un email, ça va me faire plaisir. J'ai de la place en masse chez nous. Chez mes parents.
J'allais le dire.
Mais même chez moi, j'ai de la place parce qu'en été, c'est extrêmement chaud. Donc, c'est pour ça que j'ai pas voulu faire souffrir mon ami Michael avec la chaleur intense.
Exactement.
Et voilà.
Tout est terminé. Belle musique de fin. Pour monter un petit peu le volume.
Ah. Vous êtes à l'écoute de Star Wars en direct.
La voix de la communauté francophone de Star Wars.
Vos paupières sont lourdes.
Votre ordinateur, ça fait...
Non.
En fait, on allait oublier la prochaine émission qui va être sur le roman Reunion de la série NGO.
Il n'y a pas eu une entrevue, quelque chose?
Ça, c'est quelque chose de spécial. On va leur dire quand même.
Okay.
Alors, puis d'ailleurs, si vous avez joué...
Fan de jeux vidéo,
écoutez-nous. Entendez-nous. Si vous avez joué à Knights of the Old Republic, si vous avez joué à Star Wars Galaxy, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Si vous avez des jeux Star Wars chez vous, prenez la boîte, retournez-la et regardez qui a produit le jeu. Si le nom Mike Gallo apparaît dans les crédits du jeu... Contactez-nous si vous avez des questions que vous aimeriez poser à M. Gallo sur les jeux qu'il a produits.
Et sur les futurs jeux.
Et sur les futurs jeux qu'il produira. Ne vous gênez pas, ça va nous faire plaisir. Nous avons une entrevue exclusive avec lui ce mardi même. Alors, on prend les dernières questions à 3h samedi. 3h samedi. À 3h mardi.
C'était hier samedi.
Oui, je sais. Alors, à 3h mardi. Excusez-moi, il y a Snow Trooper qui vient de me faire signe qu'on va être 10 dans la chambre d'hôtel. Il va y avoir de la bière. Ça va être la débauche totale. Mais alors pour revenir à l'interview avec M. Mike Gallo, c'est une entrevue qui nous a été gracieusement arrangée avec l'aide de...
LucasArts.
LucasArts, c'est notre cher ami Alexis Marvin, chez le PR de LucasArts.
Exactement. Donc, vous avez des questions? Envoyez-les-nous et puis ça ne sera pas live comme entrevue, ça va être pré-enregistré.
Exactement.
Donc, on va vous la faire écouter dans une future émission de septembre.
Mm-hmm. Et justement, la donner en lien pour télécharger sur le site.
Ouais.
Entre autres.
Après l'émission de
oui,
septembre.
Ouais.
Exactement.
Mais cette émission-là va être aussi très spéciale. On va avoir un autre invité.
Je ne suis pas certain qu'on va faire les deux dans la même.
Ah!
On va voir.
Encore des surprises, toujours des surprises.
Exactement.
SW1Direct.com.
Oui, oui, attention.
SW1Direct.com, vous avez toujours des surprises.
Exactement.
Même des animateurs très fatigués.
On le voit qu'on délire présentement, donc vous pouvez rire autant que nous.
Et rire de nous.
On va essayer de faire des émissions aussi loufoques dans le futur. Ben, c'est le bon d'avoir un peu de comédie.
Peut-être pas trop tout le temps.
Peut-être que ça rit pas trop de moi, c'est bien.
C'est bon. Okay,
c'est bon.
Oh non,
faut arrêter.
Alors, ceux qui veulent me voir, ceux qui veulent me voir en déguisement de Jawa avec des oreilles de lapin, ouvrez la webcam.
Ou bien avec un casque.
Il y a la musique qui va bien avec, en tout cas.
Oui, hein.
Musique de Jawa. Bon, on va arrêter là-dessus parce qu'on... On va être bon pour l'asile.
Is that you are, Carlito? Et c'était le One Man Star Wars Show. Alors, on vous dit à la prochaine sur radiostarwarsendirect.com, SW.
La voix de la communauté francophone de Star Wars. Ah ben, j'ai même pas le temps, maudit, de dire c'est quoi la prochaine émission. Vous m'avez coupé.
On t'a coupé. Ah ouais, go.
Non, la prochaine émission, ça va être la dernière entrevue avec Sean William et Shane Dix.
Oui, le 24 août.
24 août, sur le roman Reunion. Voilà, point final, soyez-y. Surveillez le site pour plus de détails. Bon, on quitte pour vrai, là. À la prochaine.
Vous étiez à l'écoute de Star Wars en direct. Surveillez StarWarsEnDirect.com pour connaître la date de la prochaine émission. Citlan.net, c'est... les toutes dernières actualités sur l'univers Star Wars. Plusieurs dossiers sur la saga. Des événements et rencontres entre fans. Un énorme forum de discussion. Une radio web à contenu 100% Star Wars, incluant une ligne ouverte en direct. Plusieurs concours ouverts au Québec et en Europe. Et bien plus encore. Ne résistez pas à la tentation du côté obscur. Cliquez sur le www.citlan.net.
Connexion Plus, l'endroit pour la vente, l'échange et le rachat de produits dérivés de Star Wars. Venez nous rencontrer sur la rue sud de Montréal, au 163 Chemin Saint-Jean, à La Prairie. Connexion Plus, au 450-659-3411.
Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Nul besoin de traverser les ponts pour vous procurer vos produits dérivés de Star Wars. Priorité collection à tout ce que vous cherchez et bien plus encore. Venez découvrir nos nouveaux locaux sur la rive sud de Montréal au 2189 Chemin Chambly à Longueuil. Chez Priorité Collection, notre priorité est la vôtre. 450-651-8482.
Author of Tatooine Ghost and the New Jedi Order novel Star by Star. You're listening to Star Wars Undirect.
Mm-hmm.
So don't just dream about applying for the Academy. Make it come true. You can find a career in space. Exploration, Starfleet, or merchant service. Choose from navigation, engineering, space medicine, person. Contact liaison, and more. If you have the right stuff to take on the universe and standardized examination scores that meet requirements, dispatch your application to
Screening Office, carry the Commandant, Imperial Space Academy, your sector, and join the ranks of the proud.
Aha! Applicant's information packet! Imperial Space Academy!
Will you stop?
Aha! You still see a Nova's, huh, Luke? Looks like the space's been played a few thousand times.
Give it back!
The great Luke Skywalker, hero of the universe! When are you gonna grow up, Luke? You're a farm boy just like me.
So you happen to qualify. So what? What do you think you are? Pigs or something?
Yeah, he just wants to go to the Academy because pigs did. He always was a hero.
Yeah, I'd like to go to the Academy. Why shouldn't I? What's on the program for today, Vincent?
Speed run, Skywalker. Speed run.
Oh? Yeah. All right. Oh. You're on. Buckle up. Hey, what are you doing? Standing in for big. Brace yourself.
Here we go. One run down the back stretch, Skywalker, whenever you're ready.
Hey, wait a minute. You and Fix are in the bottleneck together? Count me out.
Well, jump.
Call it even wait. With me, Skywalker, but let it rip. Okay, hit it.
We won. Big! When did you get back from the Academy?
For the two shooting stars that reunited at last. I'm so thrilled to be here.
I just got in on the shuttle. I wanted to surprise you, Luke. You know, I thought you'd be here when I arrived. I forgot you have the harvest coming.
Yeah, I'm stuck here.
But I thought you were going to the Academy next week.
I had to cancel my application. You know, the sand people acting up again.
Come on, Luke! Your uncle can hold off a whole Tuscan raiding party with one blaster. One of these days, buddy, you've got to separate what seems important from what is.
But the farm's just about to start paying off. Look, Uncle Owen needs me for one more season. Biggs, I can't just run out on him and Aunt Beru now.
Uncle Owen, Aunt Beru, first it's sand people, now it's the crop. Meanwhile, your application's been canceled, Luke. Canceled. Luke, listen to me. Your uncle uses that I fed you and brought you up line to keep you here. Can't you see that?
Big! My aunt and uncle are the only family I've got. They're all I've got. I don't care what you or anybody else thinks about me. I can't let anything happen to those Luke, two. I didn't mean I'll go on. Find your rebellion. You don't think I'd like to leave? You think I like staying behind? I never thought that, Luke. Well, that's how it sounded. Here, I'll let you off by the power station. Listen, next season, I'm going to be going to the Academy for sure. No, I am. Take care of yourself.
So long, Luke.
Biggs.
Yeah?
You really think those ships out there were just raiders?
Well, not if you say they were firing, I'm sure.
www.cyclan.net